Voilà, notre émission démarre. Vous pouvez nous suivre en direct sur Radio Tam Tam, sur notre page Facebook, parce que nous sommes en direct live sur la page Facebook d'Africanema. Donc, Monsieur le Président, nous souhaitons savoir votre engagement sur l'Afrique. Vous pouvez nous dire un peu plus?
Je vous remercie. D'abord, l'Afrique, c'est toutes nos origines. L'Afrique, c'est notre fierté. C'est de là que nous venons. Donc, c'est un plaisir tout ce que nous faisons. À chaque génération, un combat. Et ce serait vraiment faire preuve de lâcheté, de dire que nous ne sommes pas concernés par ce combat. Mm-hmm. Nos pères l'ont commencé. Et aujourd'hui, il est important de savoir à quel niveau nous nous situons dans le combat. Nous sommes à l'ère, nous ne sommes plus à l'ère de la dénonciation, à l'heure des pleurniches, nous sommes à l'heure de l'action. Et l'action doit se matérialiser par notre capacité à penser pour l'Afrique, notre capacité à mettre en œuvre des projets. Et c'est pourquoi Africainema a vu le jour. Donc c'est avec plaisir qu'on est engagé. Nous ne sommes pas engagés parce que nous sommes des hommes particuliers, mais nous sommes engagés parce que c'est notre devoir. C'est notre devoir d'avoir de la reconnaissance de la terre qui nous a vu naître. Et donc, c'est en ce sens que notre engagement a de la valeur.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pourriez-vous aussi nous parler de l'actualité de l'association Africainema, malgré qu'il y a des difficultés actuellement avec le Covid? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de l'actualité?
D'accord, c'est un plaisir. Et si vous permettez, j'ai bien envie de laisser Emmanuel Conan, qui est en charge de la relance, du plan de relance. Donc, il pourra certainement nous dire quelque chose à ce sujet.
Oui, en effet, au niveau de l'actualité se porte bien, d'accord, par la grâce de Dieu. Nous avons malheureusement eu un gros frein, suite notamment à la pandémie du coronavirus, qui nous a ralenti dans nos activités. Cependant, les choses semblent aller à la normale. Et nous allons profiter de cette occasion-là pour relancer nos rencontres au niveau de l'international, également les différents partenariats qui sont présentement en cours. Et également, pendant cette période-là, nous avons néanmoins fait l'effort de tenir en haleine notamment nos différentes communautés sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu ça l'actualité présentement d'Africainema.
D'accord. Merci beaucoup. Monsieur le Président, en ce qui vous concerne, vous pouvez encore nous en parler encore un peu plus, les objectifs d'Africainema.
Je vous remercie. C'est toujours un honneur pour moi de parler d'Africainema, qui est notre joyau pour le moment. Et donc, Africainema est un réseau d'excellence de jeunes pour la promotion du développement. Et c'est un réseau qui est né en France, issu de plusieurs réflexions. Et c'est un réseau qui a pour objectif de responsabiliser les jeunes. Les responsabiliser à quel niveau? En leur disant que le développement de l'Afrique sera effectif quand nous allons avoir la capacité de d'abord se réunir pour échanger, ensuite mener ensemble des actions concrètes. Et c'est pourquoi depuis quelques mois nous avons mis en place ce beau projet et nous continuons à le mettre sur les écrans afin qu'il soit connu de plusieurs, pour qu'ensemble on puisse réunir toutes les forces vives qui pourront nous permettre bien sûr de réaliser notre objectif qui est le développement de l'Afrique par l'action jeune. Et pour vous en dire davantage, nous sommes subdivisés en trois pôles pour permettre à ce que les objectifs soient facilement atteints. Nous avons le pôle Africainema Intellect qui a d'ailleurs entamé une tournée dernièrement à l'international qui était conduite par moi-même, où il fallait rencontrer d'autres communautés, d'autres pays et prévoir déjà certaines rencontres qui devraient prendre forme d'ici le mois de septembre. Et ce pôle Africainema Intellect, comme je le disais tantôt, pense des activités intellectuelles, les rencontres, les cafés, les colloques, avec pour finalité d'être force de proposition, c'est-à-dire réfléchir, recueillir toutes petites bien spécifiques sur tous les domaines de l'Afrique, c'est-à-dire l'économie, la santé, bien sûr l'informatique et j'en passe. Et nous avons ensuite le pôle Africainema Social, qui est un pôle d'action, qui est composé de deux commissions, la commission Action Sociale, parce que nous ne pouvons pas dire que nous allons mettre en marge le social. Il faut agir pour l'Afrique. Et ce pôle la commission Action Sociale mobilise des fonds pour agir dans l'éducation principalement. C'est-à-dire permettre à toutes les villes d'Afrique, dans les contrées, d'avoir accès à l'éducation, des livres, des ordinateurs, aussi la capacité à être en contact permanent avec les évolutions dans le monde, donc pouvoir leur donner cette chance-là. Et nous avons l'engagement social, voilà, qui est en fait africainement chaque année décide de d'agir pour un combat de société. Cette année c'est le vert. L'année prochaine il y a de fortes chances que ce soit l'urbanisation. Donc quand nous choisissons le vert, nous essayons de mettre en place un programme pour que déjà les gens voient l'importance du vert et quelle action nous pouvons mener aussi pour que nous soyons dans le développement durable qui est aujourd'hui un enjeu international. Et voici un peu les deux pôles principaux d'Africainement. Et on a le dernier qui est Africainement Community, il en parlait tout à l'heure, qui pense des activités pour entretenir notre communauté africainement sur les réseaux sociaux. Donc nous avons des web activités en vue. La première qui est le Mind Week que vous allez voir sur vos écrans à partir d'août, c'est inédit. C'est pour permettre aux jeunes de comprendre certaines expressions courantes qui ne sont pas de sens bien perçues. Il s'agit par exemple du PIB, le féministe. Et pour nous, il y a des enjeux qui sont cachés derrière ces termes. Mm-hmm. Et c'est pour réfléchir ensemble. Donc en gros, Africainement Community entretient la communauté avec des web activités. Elle pense aussi, bien sûr, des événements en ligne pour faire interagir tout le public. Et voici les trois pôles d'Africainement. Et avec ces pôles-là, nous pensons que nous pouvons atteindre nos objectifs.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, de toute cette présentation avec le secrétaire à la communication. Nous allons entamer notre émission d'aujourd'hui qui concerne la banque de demain en Afrique, comment s'inventer, parce que je sais que c'est ton domaine d'activité. Comment, selon vous, comment on peut changer les banques en Afrique subsaharienne au niveau de l'informel afin que les banques puissent devenir vraiment les banques? Parce que vous avez parlé tout un tas de... Vous êtes un humaniste, vous avez des projets humanistes, vous menez des projets d'intérêt général, durable. Maintenant, nous allons aborder, mais quand même au niveau des finances, concernant les banques en Afrique subsaharienne. Est-ce que les banques peuvent financer ce projet?
D'accord, je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez précisé d'ailleurs, quand on s'était eu au téléphone, vous avez dit que l'objectif aujourd'hui était de rendre vraiment le thème très simple. Mm-hmm. Ce n'était pas d'employer trop de thèmes financiers pour permettre à la grande majorité de comprendre les réels enjeux de la banque. Mm-hmm. Et c'est bien sûr sur ça que nous voulons nous mettre pour cette première édition. Et nous savons que par la suite, nous allons pouvoir employer des thèmes plus techniques. Les autres auront déjà compris les fondements, les fondamentaux, et bien sûr, on pourra élever le niveau. Alors, avant de rentrer dans le sujet proprement dit, il serait important de comprendre ce que c'est que la bancarisation, puisque on l'a dit déjà dans la présentation de l'émission, qu'on a un faible taux de bancarisation.
C'est vrai.
Donc, la bancarisation se définit comme la proportion de la population titulaire d'un compte bancaire. Et donc, quand on parle de taux de bancarisation, bien sûr, c'est de voir le pourcentage de la population qui utilise les services bancaires et tout et tout. Voici comment on peut comprendre la bancarisation de façon simple. Aujourd'hui, cette bancarisation est très faible en Afrique, tourne autour de 10 à 20%. Cela veut dire que, bien sûr, quand on a une bancarisation qui est faible, il y a un problème dans l'économie. Parce que il faut d'abord contrôler les flux financiers, chose qui n'est pas le cas. Il faut aussi avoir la disponibilité du crédit dans une économie pour que cette économie puisse se développer. Donc, lorsque la bancarisation n'est pas effective, nous sommes autour de 10 à 20%, alors qu'en France, la bancarisation a dépassé le plafond des 85%. Voyez-vous la différence? Donc, il est important qu'on puisse se pencher clairement sur cette question parce que la banque va mal.
Oui, la banque va mal en Afrique, mais connaissant que l'Afrique, c'est un continent, il y a un grand gain selon la Banque mondiale, un gros taux de liquidité qui circule de main en main. Comment l'argent qui circule de main en main, que c'est l'économie, que chacun met ses économies sous un matelas, comment apporter la confiance aux populations pour qu'ils puissent venir faire des dépôts sur les banques en Afrique? N'y a-t-il pas un manque de confiance de nos populations envers les banques africaines?
Je vous remercie. Bien sûr, là, vous rentrez carrément dans les problèmes que rencontre la banque et c'est un plaisir, on va l'évoquer. Il faut dire déjà que nous ne cherchons pas forcément à donner des clients à la banque. Nous voulons que les nécessités soient observées. Il faut que pour la population, la banque soit une nécessité. Et donc, pour que la banque soit vue comme une nécessité, il faut déjà que la banque soit proche du client. Mm-hmm. Il ne faudrait pas que nous restions dans un modèle occidental traditionnel. Mm-hmm. Il faut se dire que si aujourd'hui la banque est tant bancarisée, c'est parce que la population a d'abord compris l'importance de la banque. Et les personnes, sinon les personnes morales, je veux dire, les plus habilitées aussi à montrer l'importance de la banque, c'est eux-mêmes. Il y a un manque de communication au niveau de nos banques en Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on arrête 10 jeunes, moins de 2 jeunes sur 10 pourront nous dire exactement les principaux services de la banque. Et si l'on veut rentrer clairement dans les profondeurs, il faut dire que ça fait partie de la culture africaine de garder l'argent sur soi. Et c'est une culture dont c'est le premier problème que rencontre. Deuxièmement, on a les coûts, les frais de tenue de compte et tout et tout. Nous connaissons les réalités africaines. Donc, quelqu'un qui sérieusement garde son argent à la maison et se doit d'aller payer une personne à des coûts très élevés par rapport à notre niveau d'économie pour garder de l'argent, pour mettre de l'argent en banque, il y a déjà quelque part de la réticence. Donc, en ce sens qu'il est important de revoir cet aspect pour que cela puisse intéresser. Mais aussi, et très important d'ailleurs, nous ne pouvons pas ne pas parler de cette actualité phare, c'est l'arrivée des mobile money qui ont explosé sur le marché. Et cela est un concurrent indirect de la banque. J'ai envie de dire un concurrent direct, mais comme il ne propose pas tous les services de la banque, on a envie de s'arrêter à ce niveau. Les mobile money aujourd'hui sont sur le marché. Et qu'est-ce qui a créé ce succès? C'est parce que déjà, lorsque je veux faire un dépôt d'argent, il y a cette facilité à se rendre à quelques 50 ou 100 mètres pour déposer l'argent sur mon compte. Alors bien que quand on voit en Afrique, si je veux faire référence à la Côte d'Ivoire, dans une commune comme Cocody, mm-hmm. où il faut se déplacer à plusieurs kilomètres pour d'abord avoir une agence, et une agence pour une grande proportion de la population, c'est dire que...
À la fin, si je vous comprends bien, ça veut dire que il n'y a pas de banque de proximité pour pouvoir s'approcher des populations afin effectivement de motiver que les populations viennent déposer les mains. C'est par rapport aux innovations technologiques de numérique, c'est-à-dire que les jeunes, il faut comprendre que l'Afrique, c'est le plus jeune continent, les jeunes, ils sont hyper connectés. C'est-à-dire qu'ils trouvent là aussi leur compte aussi par rapport à nos mamans qui elles préfèrent garder leur argent. Vous qui êtes dans le domaine bancaire, comment motiver un plus grand nombre ou bien travailler sur place avec des agences pour pouvoir effectivement créer cette proximité-là avec nos jeunes qui sont hyper connectés?
Je vous remercie. Vous avez évoqué un point qui est très important. Quand une entreprise évolue sur un grand segment où on retrouve plusieurs tranches d'âge, il faut s'adapter. Ouais. Ce que je suis en train de dire, ça peut s'expliquer de part et d'autre. Il y a une raison. Pour les banques, elles ne mettent pas autant d'agences parce qu'elles se disent que quelque part, quand on crée une agence, il y a les frais, alors qu'on n'a pas assez de personnes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avoir un compte bancaire en Afrique, c'est un luxe? Tout le monde ne va pas à la banque. Donc, c'est ce que je dis. Mm-hmm. J'ai parlé du succès des mobile money. Mm-hmm. Pourquoi il y a eu cette explosion? Mm-hmm. Je pense que si on parle de ce succès, on peut comprendre ce que devrait faire la banque pour attirer le plus de personnes. Mm-hmm. Les mobile money sont facilement accessibles. Le transfert d'argent par mobile money, mm-hmm. regardez le coût, la différence. Lorsqu'on veut transférer de l'argent à quelqu'un, on n'a pas besoin d'abord de se déplacer, facilité d'accès via voilà. le téléphone. Aussi, les coûts sont relativement bas par rapport à la banque classique. Et en plus de ces deux aspects, vous voyez que en termes de garantie, en termes de pièces à fournir pour ouvrir un compte mobile money, c'est faible. Mais on ne peut pas aujourd'hui décider de transporter le modèle occidental en Afrique et chercher à avoir un succès alors qu'on n'est pas dans les mêmes contextes socio-économiques. Voyez-vous que pour créer un compte bancaire en France, généralement on demande un lieu d'habitation, on demande aussi de fournir certains papiers relativement à l'activité qu'on mène, parce qu'on ne va pas déposer son argent simplement pour déposer l'argent. Il faut qu'on soit éligible à des crédits, il faut que tous ces services soient complets. Mais l'informel est l'un des principaux problèmes de la banque. Et l'adressage.
Voilà l'adressage où on va revenir, là, qui concerne effectivement de l'informel. Qu'est-ce que c'est l'adressage selon vous concrètement?
L'adressage des rues, c'est une technique qui consiste bien sûr à nommer les rues, avoir des numéros d'appartements, comme on connaît. J'ai dû prendre aujourd'hui le GPS, mettre simplement l'adresse et je me suis rendu à Radio Tam Tam. Et c'est chose qui devrait être effective en Afrique parce que lorsque la banque est réticente dans les crédits, alors que sans crédit, on ne peut pas financer une économie aussi. Il faut créer de la ressource. Mais la banque veut avoir une assurance quand elle donne, elle prête. Mais la première assurance, c'est de savoir où trouver la personne qui a emprunté de l'argent. Voyez-vous ? Alors qu'en Afrique, il est difficile de pouvoir retrouver des personnes. Donc aujourd'hui, il est nécessaire, il est important que nous puissions parvenir à l'adressage des rues. Cela peut paraître difficile en soi, quand on voit comment les rues sont bien organisées en France et tout, mais il faut commencer quelque part.
Yes, effectivement.
Même avec un projet bénévole, nous, avec Africainement, ce sera un sujet sur la table à partir de janvier prochain, lorsque nous allons faire le bilan de l'année. Je pense qu'en année 2021, c'est un sujet sur lequel on va se plancher parce que c'est d'une grande nécessité. Lorsque nous prenons des jeunes dans une commune, si vous voulez, je prendrai l'exemple de la Côte d'Ivoire que j'aime tant, qui est mon pays. À Cocody, on peut bénévolement, on peut recruter des jeunes, leur montrer comment reconnaître une rue, reconnaître des ruelles, reconnaître des impasses, reconnaître des avenues. Et ils peuvent commencer à noter, à numéroter, à enregistrer les maisons à l'aide des photos. Et avec le numérique, on peut passer à ces systèmes.
C'est vrai que c'est important le dressage des rues d'une manière. C'est vrai qu'Africainement peut toujours apporter sa pierre à l'édifice. C'est pas un travail de l'État, des services d'urbanisme, des experts en géomètre et tout ça, le dressage des rues. Ou bien, je vois dans certains pays, on note des numéros. Chaque maison doit avoir un numéro d'immatriculation. Sur ici, là, nous, ici en Europe, il y a des boîtes aux lettres que chaque maison a, mais quand même un numéro X, Y. Et en même temps aussi, il y a beaucoup de certains quartiers sont des quartiers sous-intégrés. C'est
la plus grande
aussi difficulté aussi d'y arriver concrètement à ce problématique de dressage.
Bien sûr, tout ne peut pas être parfait en un jour. Mais comprenez-vous que ce n'est pas parce que des quartiers sont sous-intégrés, ne sont pas développés, qu'on ne peut pas identifier quand même des logements. Je pense que c'est pourquoi nous avons donné le nom africainement, pour dire qu'il faut s'africaniser. S'africaniser sous-entend que, selon nos réalités, en tenant compte de nos réalités africaines, nous devons pouvoir trouver des solutions adaptées. C'est parce que l'on veut copier ce que l'on a vu que l'on n'arrive pas à parvenir à un idéal. Si l'on regarde ce que l'on a vu, en adaptant à ce que l'on a, on peut parvenir à un idéal. Nous avons vu comment les gens ont procédé en France et en Europe. En Afrique, on a nos réalités. Et donc, si ça ne sera pas autant parfait comme en France, il faut débuter. Même si on a des maisons qui sont mal alignées, il faut réussir à les donner des numéros. Il faut réussir à les intégrer dans des systèmes pour qu'on puisse les identifier. Si on met sur Google Maps, on puisse retrouver ces endroits. Bien sûr. Et je pense que, comme nous avons tout de suite quitté le sujet, je n'ai pas eu le temps de le rappeler, c'est le retour d'expérience parmi les problèmes.
Voilà.
J'étais tout à l'heure en communication avec mon père depuis Abidjan, qui s'est rendu à la banque parce qu'il avait un souci.
D'accord.
Et c'était étrange que aujourd'hui on ait une émission sur la banque et automatiquement il me parle d'un problème bancaire. Et il se rend à la banque. Et il me fait comprendre que ça fait 40 minutes qu'ils sont assis et qu'ils ne sont pas reçus. Et j'ai vu que les rapports qu'il a eus avec la chargée de clientèle n'étaient pas de très bons rapports. Encore eux, ils connaissent la nécessité d'avoir un compte bancaire. Mais voyez-vous une dame ou une personne qui n'est pas allée très loin dans les études, qui a un tel comportement, qui assiste à un tel comportement, il s'est créé encore une grande réticence. Et donc ça, c'est un problème très important. En Europe, lorsque nous sommes arrivés, bien sûr, pour les études au départ, et nous avons rencontré les structures bancaires pour avoir leurs offres et tout, nous avons été recontactés. le parcours client a été correct, les relations avec la banque est correcte. Mais si en Afrique, nous devons mystifier la banque, c'est-à-dire que le banquier est quelqu'un à qui on n'a pas accès, il faut avoir un certain niveau de vie.
À la fin du compte, pour attirer du monde, il faut comment dire, soigner d'abord l'accueil. C'est ça. Une personne d'un certain âge attend presque avec la chaleur pendant 30 minutes assis, c'est pas normal ça. Comment voulez-vous attirer du monde pour qu'ils puissent venir dans des banques qu'ils ont pignon sur eux? Comment inventer un autre modèle, réinventer les banques de demain afin de pouvoir réellement servir les habitants, pour qu'il y ait la satisfaction des clients? Parce que là, il n'y a pas de satisfaction.
Je vous remercie, madame. Vous êtes plusieurs fois revenir sur cette question, mais au départ, je voulais d'abord présenter les problèmes de la banque afin de trouver des solutions.
Présenter.
Bien sûr, on en a déjà parlé pour la plupart. Aujourd'hui, si nous devons, nous ne devons pas forcément réinventer la banque. Nous devons plutôt chercher à adapter nos économies. L'économie et la banque doivent s'adapter, doivent matcher. Chose qui n'est pas le cas. Nous savons très bien que nous sommes dans une économie qui est dominée par l'informel. On ne peut pas laisser l'informel et la banque ne vont pas de pair parce que la banque a besoin de plus de garanties alors que l'informel ne peut pas produire ses garanties. Ce que nous demandons, ce n'est pas que la banque doit descendre jusqu'à fonctionner avec l'informel. Ça ne nous arrange pas. Mais nous devons trouver un mécanisme assez conséquent pour que, bien sûr, nous puissions formaliser l'informel. Parce que voyez-vous que le main-à-main en Afrique est quelque chose qui est très pratiqué, surtout en Afrique subsaharienne. Alors que lorsque l'État ne maîtrise pas les flux financiers dans un État, comment d'abord financer l'économie? Comment avoir de bons indicateurs? Et cela passe par un travail qui doit être fait. Au niveau de nos ministères, bien sûr, dans nos différents États, il faut que cela devienne la priorité des gouvernements. En vérité, l'informel, nous ne devons pas avoir un mauvais œil sur l'informel. Comme si c'était un endroit ou un vase où se retrouvaient les mauvais métiers. Ce n'est pas le cas. Nous allons voir dans certains pays en Afrique où avoir une boutique et on est dans l'informel. Vendre de la loco, on est dans l'informel. En clair, l'informel, c'est tout ce qui est activité qui échappe au contrôle.
Effectivement, on serait dit que l'informel fait vivre des millions de familles. Il ne faut pas arrêter l'informel. L'informel font payer des études, des enfants, les mamans, c'est eux qui tiennent la maison. L'informel, il faut seulement le structurer, à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel
bien
est votre
sûr,
point de
bien
vue?
Bien sûr, je ne peux pas être contre l'informel. Je ne peux pas être contre l'informel. On en a parlé tout à l'heure du Sénégal. Mais 80% de la population active au Sénégal est dans l'informel. Voyez-vous comment le secteur informel a été touché par la crise coronavirus en Afrique dernièrement? C'est parce qu'il y a un problème de structuration, pardon. Alors qu'en France, lorsqu'il y a eu la crise à coronavirus, on a vu que les banques pouvaient soutenir des économies, des entreprises, on a vu l'État. Mais comment voulez-vous qu'en Afrique, alors que nous avons une multitude de vendeuses de poissons, de vendeuses d'attiéké, de vendeuses d'oranges, de personnes avec des petites activités, comment on les identifie? Comment on trouve, on mesure l'impact qu'a eu la crise sur leur économie, sur leur activité, pour avoir un plan de relance?
Effectivement, donc, on ne peut pas avoir un impact mesurable.
C'est sûr.
Parce qu'on n'a pas de données, manque de données.
Clairement. Et c'est un enjeu capital aujourd'hui dans les différents États. Et on ne peut pas, de ce fait, rester avec l'informel, parce que nous savons son impact dans le PIB. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Comme je le dis, il faut des ministères qui sont suffisamment dédiés, à qui on met une grande pression, pour commencer à enregistrer et encadrer des métiers. Essayer de les encadrer avec des législations. Si aujourd'hui, il faut un petit titre pour être reconnu comme vendeuse d'aloco, et que les vendeuses d'aloco sont érigées en chambre, voyez-vous que ça devient simple de savoir dans la commune de Cocody, combien de vendeuses d'aloco il y a qui sont en droit de vendre l'aloco. On peut facilement leur donner des règles de conduite.
Mais
on peut mettre une législation.
Par exemple, s'ils ont une patente qui les permet de vendre, là, donc ils sont mécaniquement enregistrés quelque part.
Ce n'est pas suffisant. Comme je le dis, ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous, en tant que responsable directrice de la radio, vous avez, même si on vous reconnaît comme c'est à vous appartient cette activité et tout, alors que quand vous partez en Côte d'Ivoire, si je veux prendre cet exemple, ou même au Bénin et partout, une dame qui vend, même si elle n'est pas là que quelqu'un d'autre vend, il n'y a pas une étiquette réellement collée à une personne. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on peut rentrer en Côte d'Ivoire, je peux devenir chauffeur, je peux mener une activité, je suis dans l'informel, je peux faire toutes les activités. Quand c'est comme ça, on ne peut pas, même si on veut prendre des mesures assez, des mesures, de bonnes mesures pour ce secteur, on ne peut pas connaître le nombre de personnes qui l'exercent, on ne peut pas savoir cette activité remporte en moyenne combien, quels sont les réels chiffres. On ne peut pas essayer d'aider, mettre un plan d'aide ou encadrer correctement. Voyez-vous tous ces problèmes? Et si la banque n'arrive pas, je le dis, la banque n'arrive pas à être au mieux, à avoir une belle forme en Afrique, c'est parce que la banque n'arrive pas à maîtriser l'informel, n'arrive pas à évoluer avec l'informel. Il en est de même pour les PME et tout ça, et nous aurons l'occasion d'en parler. Mais comprenez que nous avons un défi en Afrique pour que les choses puissent se relancer correctement, il faut que nous puissions, bien sûr, passer ce cap de l'informel. Passer le cap de l'informel ne sous-entend pas étouffer l'informel, mais sous-entend le soutenir à tel point qu'il devienne formel. C'est ce que je pense.
Ah oui, effectivement, on voit toujours aussi, on va revenir toujours dans l'informel, aussi on va voir aussi au niveau des PME. Les PME aussi, ils ont des problèmes de dette bancaire. Ça dit qu'il y a une forte demande, mais l'offre est très, très limitée. Ça, aussi, ça cause aussi un autre problème. L'informel ne peut pas avoir des crédits au niveau des banques. Des PME sont... réellement enregistrés.
C'est vrai.
Ils sont réellement enregistrés avec le numéro d'immatriculation. Eux aussi, ils en éprouvent aussi des difficultés au niveau des banques. Et pourtant, il y a une forte demande.
C'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Et ça y va aussi des systèmes comptables. Vous connaissiez l'information financière. Il faut qu'en Afrique, on ait des cabinets indépendants capables de nous transmettre correctement des informations financières. Parce que lorsqu'il s'agit des PME, c'est bien sûr ces questions que se penche la banque. Il faut la disponibilité de vraies informations financières. Il faut connaître un peu la vie, la santé financière de l'entreprise.
Vous voulez dire que les cabinets de comptabilité n'arrivent pas à bien offrir des services, des bilans comptables crédibles?
Ce serait, si je le dis comme ça, ce serait mettre en doute les cabinets comptables. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que, bien sûr, l'information financière, comme une information, elle est facilement... Je peux vous donner une information tout à l'heure, mais il y a la manière de donner. Vous êtes parfaitement d'accord. Et donc, nous devons arriver, bien sûr, à présenter correctement la vie de nos États, la vie de nos entreprises, de nos PME, avec de nouveaux indicateurs qui sont propres au climat africain. C'est très important, parce que j'ai vu que lorsque nous voulons, même on n'en est pas dans ce sujet, mais même c'est le cas du PIB, qui souvent ne reflète pas les réalités économiques de nos États, nous devons passer un cap. C'est le cap de s'approprier notre propre vie. S'approprier notre propre vie ne veut pas dire vivre dans l'autarcie, mais c'est quand même réfléchir en fonction de nos réalités, adapter en fonction de nos réalités. Et... si les banques sont réticentes au niveau des PME et tout, c'est parce que souvent même, ils se confondent, il y a une confusion entre patrimoine de l'entreprise et patrimoine de l'entrepreneur. Il y a ces problèmes-là qui sont là. Vous voyez qu'il y a une nécessité d'encadrer les entreprises en Afrique, vous voyez. Et quand le banquier n'arrive pas à voir cette différence, à percevoir la différence qui existe entre ces deux côtés, on ne sait pas qu'est-ce qui est pour l'entrepreneur, qu'est-ce qui est pour l'entreprise, il y a ces petits soucis. Il y a ces petits soucis, mais on reste très optimiste. On reste très optimiste, comme je l'ai dit. On peut faire quelque chose pour que tous ces systèmes puissent être relancés.
Je vous comprends. Monsieur le secrétaire à la communication, vous avez quelque chose à nous en parler un petit peu, toujours dans le cadre du microfinance.
Dans le cadre de la microfinance, moi, ce sur quoi j'allais rebondir, ce sur quoi le président a dit, sur ce quoi j'allais rebondir, c'est plutôt l'aspect de la présence de l'informel. Comme il a pu le souligner, c'est que l'informel est cette forme d'auto-entrepreneuriat qui est majoritaire en Afrique. Et à ce moment-là...
Là, moi, je préfère le mot terme auto-entrepreneuriat.
Entrepreneuriat.
Pour pouvoir effectivement évacuer, parce que notre émission aujourd'hui aussi, comment innover, inventer. Ça veut dire que ça, c'est un mot aussi à inventer, mais ça peut prendre du temps pour que les gens puissent mettre entre guillemets en tête le mot auto-entrepreneuriat. C'est une innovation aussi.
Parce qu'en effet, c'est que la majorité des personnes qui sont dans l'auto-entrepreneuriat représentent cette majorité qui sont les actifs de l'informel. Bon, on dit en fonction de certains chiffres, dans certaines études, en Afrique subsaharienne, on est à 90%. Donc on se rend compte tout à fait du poids que ça a sur l'économie de nos pays. Et à ce moment-là, dans le contexte de la microfinance, c'est que la microfinance, elle intervient comme étant cette alternative qui, avec son produit phare, notamment les microcrédits, permet de financer les acteurs de l'informel. Qui, eux, sont exclus du système bancaire classique. Et à ce moment-là, dans le contexte où tous les organismes de la microfinance, en fait...
Je veux dire peut-être que... Oui, c'est ça, parce que je pense que c'est la microfinance, dans le cadre des crédits, puisque... Quand il évoquait, c'est ça, ne sont pas les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs n'ont pas la facilité d'accès du crédit.
En effet.
Effectivement.
Donc, c'est d'ailleurs une belle question que vous posez parce que ça ouvre sur une thématique qui est très importante, celle de dire, est-ce que sur l'aspect du crédit, les microfinances remplacent la banque qui a échoué en Afrique?
Ça aussi, c'est une bonne question qui renvoie à une autre bonne question.
Voilà.
Vous qui êtes dans le domaine, c'est à vous maintenant d'apporter une bonne éducation ou une bonne information fine à nos auditeurs. Vous êtes en direct avec Boris Kouakou, le président de l'association africaine MAN, qui est en direct sur Radio Tam Tam. C'est pour rappeler à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la bancarisation, le taux de bancarisation en Afrique noire subsaharienne. Et nous avons abordé aujourd'hui la présentation de l'association africaine MAN et puis aussi de l'éducation bancaire. Maintenant, nous abordons toujours le microfinance, comment financer l'informel que le secrétaire à la communication vient de nous dire que c'est l'auto-entrepreneuriat.
En effet.
Voilà. Voilà, vous êtes toujours en direct sur Radio Tam Tam. Nous allons peut-être pouvoir marquer une pause.
Radio Tam Tam, 100% B-Music. 100% B-Music.
C'est votre radio sur vos ondes.
Téléchargez l'application sur iPhone, Google Play et sur Alexa.
Radio Tam Tam, la parole est une force.
Musique, info et actualité.
Voilà, vous êtes toujours en direct sur Radio Tam Tam avec notre invité du jour, Monsieur Boris Kouakou, le président de l'association africaine MAN, qui est avec nous aujourd'hui pour aborder des sujets sur le taux de bancarisation en Afrique. Comment innover, comment réinventer la banque de demain en Afrique? Monsieur le Président, vous avez toujours la parole pour essayer un peu d'éclaircir nos auditeurs sur les innovations, comment se rapprocher de la banque traditionnelle. Il y a le retour de l'expérience qui n'est pas vraiment... il n'apporte pas ce que les clients désirent. Vous m'avez parlé tout à l'heure là, de votre papa qui a attendu sur un certain temps. Le retour d'expérience n'est pas... Ça, il manque des banques de proximité. Quelle innovation pourriez-vous me proposer pour qu'il y ait un impact positif que moi, je suis dans les formels pour que je puisse venir dans ta banque pour déposer mon argent?
Je vous remercie. Je vous remercie déjà. Vous savez, on peut naturellement, pour que le taux de bancarisation puisse grimper, commencer à imposer certains systèmes, l'utilisation de cartes bancaires dans certaines zones. Mais voyez-vous, si nous imposons les cartes bancaires dans certains endroits, cela veut dire que tout le monde va chercher à avoir un compte bancaire. Mais si nous le faisons, est-ce que toutes les personnes sont éligibles à l'ouverture d'un compte en Afrique? La question se pose là. Il faut que nous puissions revoir les garanties, les documents que nous demandons pour l'ouverture des comptes. En Afrique, la morale compte. En Afrique, certains paramètres comptent. Ces paramètres peuvent ne pas avoir la même importance en Europe. Mais chez nous, par exemple, pour juger la moralité, nous n'allons pas regarder les mêmes paramètres qu'on regarde en France. Donc, il faut que nous puissions essayer de prendre tous ces éléments en compte pour donner une autre manière, pour avoir une autre manière d'apprécier les personnes en Afrique. Personnes physiques, même aussi les personnes morales, dans certains sens. En ce sens que, dans un premier temps, il faut que la banque essaie de diminuer un tant soit peu les exigences, d'abord, qui freinent, bien sûr, bon nombre de personnes à se diriger vers la banque. C'est un premier point. Dans un second point, les frais élevés peuvent venir avec le temps, quand l'économie sera en relance, quand nous allons atteindre un certain niveau. Mais être déjà une personne à revenus très limités et avoir à payer des frais de tenue de compte, il y a un problème. Je me souviens quand j'étais en Côte d'Ivoire et j'étais président des étudiants dans une école de commerce et nous avons été approchés par certaines banques pour l'ouverture de compte. Mais nous voyons qu'à peine après 6 mois et tout, il va falloir payer des frais de tenue de compte. Mais des étudiants qui ne perçoivent pas un revenu, c'est une réalité en Afrique. Et nous demandons des frais de tenue de compte. Je pense que sans vouloir chercher à donner des clients à la banque parce qu'ils devraient avoir des clients, il faut que nous puissions trouver des stratégies pour attirer d'abord des gens. Parce que les mobile money, certes, ça facilite les transferts et tout, mais est-ce que ça permet de financer l'économie?
Non.
Est-ce que ça permet à l'État d'avoir un contrôle sur les flux financiers?
Non.
Non. C'est parce que la banque a échoué à ce niveau. Aujourd'hui, il faut que les parcours bancaires soient allégés, soient simples. Il faut que la banque vienne vers nous. Il ne nous appartient pas seulement d'aller vers la banque. Il faut que la banque vienne à nous. Et pour que la banque vienne à nous, elle peut venir de plusieurs manières. Elle peut venir par le digital. Est-ce que vous savez que ces dernières années, nous avons vu une croissance exponentielle au niveau des connectés à la technologie en Afrique? L'utilisation du téléphone portable a explosé en Afrique de l'Ouest, notamment depuis 2016. Donc, il faut que la banque, aujourd'hui, ce soit très simple avec son téléphone portable de pouvoir échanger avec, bien sûr, un conseiller, de pouvoir effectuer des transactions et tout. Maintenant, dans un contexte actuel où nous voulons que nos économies soient prospères, nous l'avons rappelé, nous n'allons pas nous étaler encore dessus, va falloir que la question de l'informel, africainement, vu que c'est une question très phare, l'a prévu pour le mois de novembre, pouvoir se réunir et réunir des jeunes africains, des jeunes cadres africains en France, en Europe et un peu partout, qui pourront bien sûr être présents. Nous allons nous attaquer à la question de l'informel. Parce que c'est vrai que nous parlons de la banque, il y aura des innovations, il y a un travail de la banque, je n'en disconviens pas. Mais si je reviens sur la question de l'informel et l'adressage des rues, c'est parce que c'est important. Lorsque nous parlons des services bancaires, nous parlons de l'argent. Je ne vais pas vous rappeler l'importance ou le niveau de d'abord confidentialité, le niveau de sérieux lorsqu'on parle d'argent. Et voyez-vous que ne pas connaître le lieu d'habitation d'une personne, ne pas avoir des données sur son activité, ne pas avoir un minimum d'informations, crée naturellement de la réticence.
Pourquoi, moi, je vois ici au niveau de la Poste, qui a été privatisée il n'y a pas si longtemps, hein, ça fait à peu près 8 ans que la Poste a été privatisée. La Poste, même jusqu'à présent d'ailleurs, ouvre les livrets, des livrets pour des personnes, par exemple, comme nous sommes ici en France, les personnes qui touchent les minimums sociaux. C'est-à-dire que quand ces minimums sociaux-là, on ne peut pas les envoyer un chèque, de toute façon, on t'envoie un chèque, il va falloir que vous le déposez quelque part, n'est-ce pas? Donc, la Poste joue encore un rôle, même si c'est une banque qui était privatisée, l'État a encore son droit de regarder dedans, c'est-à-dire que la Poste a le droit d'ouvrir une personne un livret. Le livret, ça peut permettre effectivement le problème que vous abordez là, le problème de le taux de découvert, de tenue de compte. Par contre, le livret par contre permet en sorte que la personne économiquement faible, comme on dit au Gabon, n'est-ce pas, que son livret lui rapporte de l'argent, même si ce n'est pas beaucoup. Et notre problème, c'est que moi, j'essaie un peu de voir, parce que l'émission d'aujourd'hui, c'est trouver des innovations. Là aussi, c'est un peu d'amener ces problématiques-là, de suggérer ça au niveau de l'association africaine. Et puis aussi, un autre problème, aussi le dressage des rues qui vous tient à cœur. Est-ce que avec la Poste joue, je parle toujours au niveau de la Poste, d'ouvrir des boîtes aux lettres aussi?
Bien sûr, ça y va de... C'est d'ailleurs, ça va de pair, parce que déjà, pour qu'on puisse livrer un colis, il faut qu'on puisse avoir un matricule. Mm-hmm. Vous avez un matricule, c'est votre adresse. Mm-hmm. Et donc, tant que nous n'avons pas fait l'adressage de rue, on peut ajouter toutes les boîtes aux lettres, mais il est difficile de retrouver la personne. Voyez-vous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la bancarisation, mais vous voyez comment on s'éloigne du sujet. On n'est pas éloigné. C'est des sujets qui sont liés. C'est pourquoi on peut aujourd'hui vouloir s'attaquer à la banque directement. Mais au lieu d'aller à la banque, on peut aller à la source. Je pense que c'est un idéal que la banque s'adapte, bien sûr, aux réalités africaines. Mais ces réalités africaines, nous pouvons aussi les améliorer. Et pour nous, l'amélioration, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Et si nous voulons continuer, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui prospère dans notre société des systèmes comme les tontines et ces petits systèmes. Mais l'État, si je veux prendre l'actualité en Côte d'Ivoire, qui a été interdit, ces systèmes-là ont été interdits dernièrement.
Tout dernièrement, j'ai entendu le président Ouattara a interdit ça avec le ministre des Finances ou quoi.
Cela a été interdit. Je ne vais pas commenter cette décision particulièrement. Mais je veux dire que si nous voyons que ces petites activités commencent à être ont été prisées, c'est parce qu'il y a un besoin pour la population d'être connectée à des systèmes financiers. Il y a un réel besoin pour la population. Et donc, à cette population, nous ne devons pas la laisser comme ça. Est-ce que vous voyez que chaque année, il y a une communication des banques pour essayer de toucher, bien sûr, la majorité des étudiants? Il y a une communication pour toucher toute personne qui entre tout de suite sur le territoire français. La banque de demain sera la banque qui va essayer de s'unir avec l'État pour que nous puissions nous attaquer tous à l'informel, pas l'attaquer pour le détruire, mais pour l'attaquer pour lui dire de remonter, pour qu'on puisse aller tous vers le formel. Quand les emplois seront encadrés et qu'une vendeuse assistante d'Aloco peut avoir des fiches de paie et que nous avons une fiscalité qui est abordable, une fiscalité qui tient compte du niveau économique des ménages. Quand nous avons, bien sûr, des rues qui sont bien numérotées, bien nommées et tout, et qu'on connaît le lieu d'habitation de chacun, en ce moment-là, nous sommes en train de réinventer la banque. Parce que la banque, maintenant, on pourra lui dire, mais tiens, bien sûr, on a le cadre qui est très bien positionné, on a le cadre qui est correct. Il faut maintenant faire beaucoup d'efforts, diminuer les différentes... garantie pour qu'on puisse bien sûr avoir un taux de bancarisation. Certains se plaignaient que la banque avait des taux relativement hauts. Mais la banque a des taux relativement hauts parce que la prise de risque est grande. Il faut le reconnaître. Et ce que la banque ne peut se permettre de faire, surtout que nous savons que lorsqu'on prête et qu'on n'a pas l'assurance qu'on aura un retour, c'est difficile. Mais je ne peux pas venir dire à un banquier que je gagne 300 000 francs par jour alors que je ne peux pas prouver que je gagne 300 000 francs. Et cette alternative de microcrédit. Mais le problème, c'est que les microcrédits ne prêtent pas de sommes très conséquentes.
Bien sûr, même ici en France aussi. Hein.
Les microcrédits ne prêtent pas de sommes très conséquentes et c'est sur du court terme. Mais comment voulez-vous qu'on puisse financer de grandes choses lorsque les crédits sont relativement bas, les taux élevés et sur du court terme? Donc, c'est vrai que les microcrédits apparaissent comme des sauveurs de ceux qui sont exclus par les conditions du système bancaire classique. Mais est-ce qu'ils sont avantagés? Est-ce qu'ils sont dans une posture adéquate? Ils sont obligés. C'est ceux qui connaissent un peu le monde financier, mais qui ne remplissent pas, qui voient la difficulté que présente la banque classique, qui se tournent vers les microcrédits, même les femmes et tout ça. Mais un crédit bas, un taux élevé, on a aussi des délais relativement courts, c'est compliqué.
C'est compliqué. Effectivement, il y a aussi des grands groupes américains, Moneygram et tant d'autres. Est-ce que, toujours dans l'informel, on ne peut pas travailler en partenariat avec ce grand groupe-là afin de créer des agences bancaires, étant donné qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui ont voulu lancer dans le système, et tout récemment, là, le président Ouattara a interdit toutes ces démarches-là. Mais ces gens-là se retrouvent, entre guillemets, sur la rue, ils n'ont plus là où aller parce qu'il y a un délai, je crois qu'il y a un délai qu'il a donné pour que tous les gens qui ont de l'argent là-bas, d'aller tout récupérer, tout leur argent, cet argent-là. Ils vont aller où? Ce sera sous le matelas? Comment il faut faire avec tout cet argent-là qui sera toujours aussi des liquidités?
Bien sûr,
l'argent-là n'ira pas dans les banques.
Chercher, bien sûr. C'est en ce sens-là maintenant que la responsabilité des banques doit être là. Si les banques arrivent à tenir parce qu'elles financent de grandes activités, des activités légales qui leur permettent de relativement tenir, il faut se dire que la bancarisation, la banque n'est pas que pour elle. La banque, c'est pour le peuple, la banque, c'est pour la communauté, la banque, c'est pour l'économie. Donc, lorsque ces systèmes sont interdits, je pense que c'est la porte ouverte, c'est l'opportunité que devraient saisir les banques pour essayer, dans un temps, parce que je sais que l'informel, c'est avec le temps que ça va se prendre, mais d'essayer de trouver un moyen d'attirer des gens, trouver un moyen de communiquer sur les produits bancaires, trouver un moyen de, bien sûr, montrer que la banque est accessible, sinon la rendre accessible, sous un certain
nombre. Je préfère le mot, c'est-à-dire rendre la banque accessible et puis aussi le retour d'expérience qu'on a parlé là tout récemment, et puis aussi apporter la confiance. Il y a un manque de confiance aussi aux banques. Manque de confiance.
En effet, hein? Parce que je pense que cela est très lié aussi, ce manque de confiance est très lié, ça reste culturel. Mm-hmm. On a souligné tout à l'heure l'idée de la tontine, qui est une forme de finance que pratiquent beaucoup de femmes sur les marchés. Et cela leur permet de s'approvisionner, majoritairement de s'approvisionner sur les matières premières, notamment ce qu'elles vont revendre par la suite. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là que les microfinances, elles répondent exclusivement au fait que ces personnes-là soient exclues directement du système bancaire. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'elles ne sont pas dans l'idée de pouvoir vraiment impacter sur la pauvreté, mais plutôt, comme on tente de souligner aussi l'idée de la bancarisation, mais ce à quoi elles répondent, en fait, reste celui de l'exclusion. Et elles n'en viennent pas véritablement lutter réellement, créer cet impact que peut avoir l'informel notamment l'économie d'un pays. Mm-hmm. Là, on a souligné également les délais courts, et je crois que selon encore des études, en moyenne, les microfinances prêtent en moyenne moins de 100 000 francs.
C'est normal,
moins de 5 000 francs.
Même ici en France.
En effet. Et ça, c'est plutôt pour limiter le risque, parce que, comme il a souligné, le risque est grand. Le risque est grand, mais sauf que les taux sont également élevés. Mais quand on parle de microfinance, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a plusieurs microfinances. Aujourd'hui, il y a des microfinances qui accompagnent réellement plusieurs personnes dans l'informel, dans leurs actions quotidiennes, parce qu'ils passent par des formations des fois, où on convie des personnes à être formées pour avoir cette co-gestion avec la microfinance. Et ce qui permet à la microfinance de savoir que tel de ses clients est un client potentiel sur l'avenir. Et c'est sur ça que certaines microfinances un peu misent, c'est l'avenir un peu du secteur informel. Et je pense que ça c'est une aubaine autant pour les banques qui vont peut-être s'intéresser justement à l'opportunité qui arrive. Mais là où les microfinances ont déjà l'avantage, déjà sur l'opportunité qui est déjà présentée. Et c'est ce sur quoi...
C'est ça, c'est correct.
Effectivement. Moi, je ne sais pas, moi, je suis monsieur le président Kwaku, le président d'Africanement qui est en direct, et puis nous sommes aussi en compagnie du secrétaire à la communication, monsieur Emmanuel. Je suis Jofiel, je suggère aussi une autre idée là, qui est par exemple les banques. Et c'est possible, enfin c'est une idée qui me vient comme ça, parce qu'on parle toujours de l'informel, que les banques forment, nous sommes sur la formation, former des personnes, aller voir les personnes dans l'informel. Et ça dit que les banques ils peuvent les donner des souches, des carnets, ça dit qu'ils collectent de l'argent, la personne donne sa pièce d'identité, tout ça, ça dit qu'une personne référente, une référente avec le casier judiciaire vient bien sûr former, ça veut dire prendre la maman qui vend la tomate à côté, la loco, je ne sais pas quoi, de collecter cet argent tous les jours et d'aller le déposer à la main. Je vois, entre guillemets, c'est comme un transporteur de fonds. C'est parce que nous sommes là pour trouver des idées de demain, de créer la main, de trouver des innovations. C'est ça le thème de notre émission aujourd'hui. Moi, j'essaie un peu de poser à monsieur le président Boris Kwaku, qu'est-ce qu'il en pense de cette idée, avant de faire une transition, de passer sur l'assurance, qui est aussi ton cheval de bataille. Avant de faire cette transition, j'aimerais avoir ton avis sur cette idée.
C'est possible, je peux le dire comme ça. Sans déjà chercher à faire d'études techniques, je peux dire que c'est possible. Si nous restons, je pense que nous l'avons évoqué depuis longtemps, la banque doit penser de nouveaux systèmes, doit se rapprocher plus de la population. Donc si par cette méthode, la banque réussit bien sûr à avoir le plus de personnes, c'est une bonne chose. Nous allons, toutes ces idées que nous évoquons, comme je l'ai dit, vous avez précisé, dans un premier temps, c'était de rendre le sujet très simple, avant de le transporter en langage financier. Donc nous voulons parler avec des techniques simples, des méthodes simples. Donc quand vous évoquez cette solution, nous la prenons. Nous allons bien sûr l'étudier. Notre but, c'est bien sûr de voir comment nous pouvons soutenir l'Afrique, nous pouvons aussi nous investir, c'est notre devoir.
Effectivement.
Toutes les solutions qui sont proposées sont des solutions qui sont on ne peut pas les rejeter. Ce sont des solutions à analyser, à essayer de transporter dans le monde bancaire pour voir la faisabilité. C'est là qu'elles deviendront réellement des solutions. Toujours est-il que cela demeure, nous avons dans notre analyse vu que ce n'est pas parce que, c'est vrai que c'est dans nos habitudes de garder l'argent à la maison, mais ce n'est pas parce que la population refuse la banque, mais c'est parce que on sait moins sur la banque.
Manque de confiance.
On en sait moins sur la banque. Aussi, la banque, lorsqu'on s'approche de la banque, on voit qu'il y a des exclusions. On n'est pas tous réellement éligibles à la banque parce qu'on ne peut pas tous profiter des mêmes services, parce qu'on ne peut pas tous présenter les mêmes garanties. Il y a cette question. Il y a aussi le digital qui doit bien sûr être au cœur de la nouvelle stratégie, parce que nous sommes dans l'Afrique.
L'Afrique de demain, et c'est le continent le plus jeune, et c'est des jeunes hyper connectés.
Surtout, c'est ça. Donc il faut qu'aujourd'hui...
Ça veut dire qu'il y a une clientèle énorme.
Bien sûr, nous voyons que la démographie est très forte. Donc, ce ne sont pas des personnes qui manquent en Afrique. C'est d'ailleurs pourquoi le continent africain est dit continent d'avenir, parce qu'il y aura des potentiels consommateurs. Mais ces potentiels consommateurs, si nous restons, et pour terminer sur ça, dans un modèle classique, sans chercher à comprendre les réels enjeux, sans chercher à aller vers la population, mais se dire que tout le monde comprend que la banque est importante, tout le monde devrait aller créer un compte. Non. Réfléchissons ensemble, essayons de revoir nos conditions, essayons de parler à la population, essayons de faire des publicités davantage. Je ne sais pas si aujourd'hui
oui,
ça a changé,
je comprends, mais
il n'y a pas assez de publicité.
La publicité davantage, mais il faut un message qui m'intéresse, moi. Moi, je vends mon aloco, mais vous pouvez faire ta publicité. Si ça ne me touche pas, ça ne veut rien dire. Mais il faut toucher mon cœur pour qui me rassure. Moi, je veux être rassurée. Que je viens déposer... Il faut me proposer des produits, ça aussi. C'est ça qu'on appelle ici, tu travailles là-bas, on appelle ça un conseiller bancaire. Il faut que vous êtes mon conseiller, vous me proposez des produits et m'expliquez. Mais c'est que de long en large, quel est mon avantage et quel aussi ton avantage? Parce qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant. Tu gagnes en tant que banquier et moi en tant que client, que moi aussi je trouve mon intérêt. C'est ça là, le problème de distanciation qu'il y a entre les clients potentiels et aussi les banques. Qu'est-ce que moi je fais? Moi, il y a mon matelas. Moi, je mets, voilà.
C'est vrai.
Donc, moi, je pense que les idées innovantes qu'on essaie un peu de creuser, là, il faut toujours creuser en disant que l'Afrique, c'est le plus jeune continent et ce sont des jeunes qui sont éduqués et c'est des jeunes hyper connectés que les banques doivent trouver des idées innovantes au niveau digital, afin d'attirer cette jeunesse pour que cette jeunesse accepte de venir déposer son argent à la banque, parce que cette jeunesse-là, ce sont des cadres, des personnes instruites. Ce n'est pas la maman qui vend la loco, qui n'a pas confiance à la banque, qui va approcher la banque. Vous pouvez lui faire toute la publicité que vous voulez. Vraiment, ça ne le touche pas. Par contre, un jeune de 18 ans, ça le parle. Donc, il faut cibler. Il faut cibler la communication à qui?
En effet, là, je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faut cibler, en effet, une clientèle particulière.
Voilà.
Sauf que là, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se développer, même dans le contexte du digital, c'est de pouvoir répondre à des thématiques très adaptées, telles qu'on voit des passerelles de paiement en ligne, où la personne se munit, par exemple, pas forcément, et ça c'est venu aussi de cette digitalisation avec les transferts d'argent, comme il a pu le citer, avec les transferts d'argent du mobile money, où les gens ont cette facilité de pouvoir acheter avec justement en ayant son téléphone à sa disposition, ce qui crée un peu cette particularité en fait du digital, c'est que la maman peut-être, parce que en fait le problème qui sera aujourd'hui au départ, c'est celui de la petite monnaie. C'est qu'on se retrouve très facilement en manque de petite monnaie et des fois on est obligé de laisser la monnaie chez le boutiquier. Et cette idée est venue de certains jeunes qui ont pu analyser cette frustration qu'on pouvait rencontrer beaucoup de personnes dans leur quotidien pour pouvoir essayer d'y répondre. Et je pense que là, le contexte du ciblage est une très très belle, très, très belle thématique qui a été mise en place, parce que je pense qu'on peut adapter en fait cette digitalisation à tout type de clients, et déjà toute échelle de la population. Et c'est pour ça que je voulais juste rebondir sur cette idée.
C'est ça, je partage parfaitement, parce qu'on ne peut pas... la population, c'est les vieux, c'est les jeunes, c'est toutes ces composantes qui font la population. Donc, il a évoqué quelque chose qui m'a fait sourire, les frustrations. On est obligé de laisser la monnaie parce qu'on ne peut pas avoir une carte bancaire payée. On ne demande pas, en conclusion, que... En Afrique, on est le modèle identique où on est obligé de passer dans un système qu'on connaît déjà. Non, on doit inventer notre système. Mm-hmm. Donc, c'est en ça que quand on dit qu'on doit
de l'innovation,
la banque,
voilà, de trouver le nom par rapport à notre propre culture, à nos propres valeurs.
Un monsieur qui a 2000 francs, au moins, peut avoir ça sur sa carte et puis se déplacer avec ça. Donc, Pourquoi nous voulons que ce soit à la banque? C'est parce que quand ça va à la banque, nous connaissons l'impact de la banque et l'économie. Le lien étroit qu'il y a entre la banque et l'économie. Parce qu'il y a des informations financières qui sont données. Et lorsqu'on est à la banque et qu'on a commencé, le banquier qui voit mon comportement ensuite 2-3 années, on finit par être éligible à de grandes choses. Nous, non, notre objectif, ce n'est pas de donner des clients à la banque parce que les gens, parce qu'il faut donner des clients à la banque. Mais il y a un enjeu qui est important, c'est la santé de l'économie.
Effectivement, je comprends le souci qui est que ce sont les banques qui, effectivement, les banques ne peuvent pas financer l'informel. Ok, l'informel, c'est le jour, ça passe ou ça casse, tant pis. Mais c'est effectivement, c'est la banque qui finance des grandes infrastructures, des projets structurants d'un pays. Ou aussi, s'il y a des surplus, par exemple, le cas de la BAD, la BAD, c'est la Banque africaine de développement, c'est-à-dire que développement veut dire que financer des grandes infrastructures. Mais si la banque se retrouve lui-même aussi, il est en cours de liquidité. Afin de pouvoir financer, ben, il est obligé aussi de faire des crédits soit à la Banque mondiale ou de trouver d'autres partenaires qui vont rentrer. D'ailleurs, on sait que la majorité de nos banques, la Banque de France a toujours son mot à dire. Ça veut dire qu'ils rentrent dans le capital afin de pouvoir aussi financer des grands projets structurants. Les grands projets structurants qui sont quoi, les enjeux en Afrique, par exemple des autoroutes, des écoles, des hôpitaux, ce sont des besoins émergents qu'on avait besoin de faire. Ça, ce n'est pas l'informel qui va financer ça.
C'est vrai.
Voilà. Bon, nous allons maintenant aborder l'assurance. Qui c'est aussi un sujet qui tient Monsieur le Président Boris Kwaku à cœur, dont nous allons aller dans ce même élan pour parler de l'assurance. L'assurance est censée aussi soutenir l'économie et ses habitants en évitant le chaos, mais nous ne sentons pas vivre l'assurance en Afrique. Quel regard portez-vous sur l'assurance? Est-ce une nécessité? Est-ce un luxe, Monsieur le Président?
Je vous remercie. Grosse question qui pourrait faire l'objet de conférences ou de séminaires. Mais nous allons chercher à donner une réponse assez simple pour qu'on se comprenne. Vous avez dit, l'assurance, le mot est clair. C'est un mot qui a tellement été bien choisi pour définir cette activité commerciale. L'assurance. L'assurance ne veut pas dire qu'il n'aura pas de problème. L'assurance veut dire, en cas de problème, on peut avoir une assistance.
Voilà.
Et donc, imaginez-vous, vu que nous marchons tout le temps avec des risques, imaginez-vous une économie où le ménage n'est pas assuré en quelque sorte, où il y a moins d'assurance, moins de programmes d'assurance. C'est-à-dire qu'on marche sur un pied. En cas de désastre, c'est le chaos. En ce sens que l'assurance prend toute son importance dans une économie. Mais l'assurance est particulièrement encadrée par aussi un législateur. Le législateur. Donc, quand on parle d'assurance, bien sûr, l'État intervient dans l'assurance. Autrefois, quand on prend en France, pardon, pour ne pas me perdre dans mes mots, il y a des assurances obligatoires. Alors qu'en Afrique, nous sommes à combien d'assurances obligatoires? C'est du ressort de l'État, pardon, du ressort de l'Assemblée nationale, des législateurs, de rendre des assurances obligatoires. Autrefois, quand on prend dans les contrées avec les cases, les gens qui ont des cases, qui sont facilement, qu'on peut facilement reconstruire, on ne voit pas la nécessité d'avoir une assurance habitation. Parce que lorsqu'on est sinistré, on peut rapidement taper sur le marteau et puis reconstruire. Mais on se rend compte que les statistiques du monde montrent que les populations africaines deviennent de plus en plus urbaines. On se dirige vers la ville. On a tous des smartphones et tout et tout. Donc une assurance... Chacun assure ce qui lui est cher. Donc l'assurance aura du succès quand l'assurance va se tourner sur ce qui a de la valeur pour la population africaine. Si une chose n'a pas de la valeur, je ne vais pas l'assurer. Je vois les assurances des animaux en France. Nous savons combien de fois le chien et le chat sont culturels dans le monde français. Mais est-ce que c'est la même culture en Côte d'Ivoire? en Afrique.
C'est pas seulement le peuple de la Côte d'Ivoire, de tout le continent.
De tout le continent. Mm-hmm. Est-ce que le chien et le chat ont la même valeur? Mm-hmm. Mais en Afrique, par contre, d'autres choses peuvent avoir de la valeur qu'on peut assurer. Mm-hmm. C'est en ce sens que l'assurance reprend sa forme. Voyez-vous, mm-hmm. Ça me fera mal de parler encore de ce même sujet, puisqu'on en a parlé avec l'informel et tout, mm-hmm. mais les couturiers, ils peuvent avoir un problème avec leur machine. Mm-hmm. Ils peuvent, par un problème, ne pas pouvoir assumer leurs engagements vis-à-vis d'un client. Voyez-vous aujourd'hui...
voire même un fer repassé qui brûle le tergal, je ne sais pas, le polyester, je ne sais pas...
Merci. La vendeuse d'Aloco, mm-hmm. même si c'est un hangar bien fait mm-hmm. qu'elle a et tout, mais cet hangar lui coûte cher, compte tenu de son activité. Mm-hmm. Imaginez-vous que celui-ci part en feu. Imaginez-vous s'il y a un désastre. Imaginez-vous sa bouteille de gaz qui a un problème. Imaginez-vous toutes ces questions. Bien sûr que l'on dira que c'est à cause de l'informel qu'on ne s'attaque pas à ces métiers. Mais tout ça est lié. Mais c'est là que l'assurance prend sa forme. L'assurance agricole aussi, ce n'est pas très bien pratiqué en Afrique. C'est vrai qu'il existe l'assurance agricole, mais qui est encore très peu connue. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui proposent cette assurance. Mais que devons-nous proposer en Afrique, alors que nous avons un peuple très agricole? L'assurance devient importante lorsqu'on s'attaque, ou on ne dit pas qu'on s'attaque, mais on cherche à protéger les activités les plus prisées dans nos États, et ces activités sont dans l'informel, par contre. Donc, l'assurance n'est pas un luxe, mais aujourd'hui, l'assurance est un luxe en Afrique. C'est une réalité. Un luxe parce que on se dit que c'est ceux qui ont les moyens qui peuvent avoir une assurance, mais là encore... L'assurance ne doit pas rester classique. Vous savez, en France, un étudiant, le coût de l'assurance pour un étudiant n'est pas pareil pour un salarié, une personne qui travaille, qui est en famille, qui a une famille et tout. Mm-hmm. Donc, si nous savons que certains jeunes, même si ce n'est pas tous les jeunes, ont chez eux, il faut penser des programmes pour des étudiants. Il faut commencer à développer l'offre d'assurance des smartphones qui tiennent à cœur aujourd'hui aux jeunes. Et par les smartphones, ils vont commencer à voir l'importance. Et un point que je voulais souligner, c'est on veut se prémunir des risques. On veut se prémunir, mais il est important de prévenir. Mm-hmm. Et l'assurance aussi, en quelque sorte, joue ce rôle. Mm-hmm. Et c'est sur ça que je veux attirer l'attention. Voyez-vous, en France, c'est vrai qu'on a l'assurance habitation, mais qu'est-ce qui est dit? Une obligation.
Comme vous avez africainement aussi, je crois que lui aussi, il a son assurance, responsabilité,
c'est ça aussi. C'est ça. Une obligation mmh. aujourd'hui d'avoir dans les maisons des détecteurs de fumée. Mmh. Mmh. Ce n'est pas que nous sommes en train de faire de l'assurance, c'est de la prévention.
La prévention.
Parce que le plus important, ce n'est pas que le sinistre vienne, ce n'est pas un désengagement de l'État ni un désengagement de l'assureur.
Et en même temps aussi, détecteur fumé aussi, ça permet aussi de sauver aussi des vies.
C'est ça. Mm-hmm. Et c'est le rôle de l'assurance, mm-hmm. éviter le chaos. Mm-hmm. Donc, même si nous ne sommes pas arrivés au stade de pouvoir rendre plusieurs assurances obligatoires, mais ces petits mécanismes-là devaient devenir obligatoires et accessibles. Avoir, par exemple, des détecteurs de fumée dans les maisons, on devait l'imposer, on devait aider les gens à en avoir. Et on a vu qu'en Afrique, ce n'est pas plaisant de voir que assez d'incendies, surtout ces dernières années, et même dans les entreprises, les grandes entreprises, des inspecteurs, cela devait devenir une obligation, voyez-vous. Et donc, l'assurance en Afrique, c'est d'une grande importance. Nous avons déjà commencé à travailler dessus et on a eu comme socle certains mémoires, puisque vous savez qu'on vient du domaine bancaire et assurantiel. Nous pensons que c'est un domaine d'avenir, mais qui marche avec l'État. Ce que nous allons faire, c'est bien sûr réussir à faire des propositions à l'État, sans voir la population comme une source de profit jetable, mais proposer des programmes pour qu'au moins, en cas de sinistre, toute la population se sente à l'abri, ou bien se sent...
À l'abri, de même aussi les accidents de la vie, casser un pied, un accident, la voiture en renversant un enfant en rentrant de l'école, ça veut dire qu'avoir aussi des assurances scolaires. Mais tout ça là aussi, ce sont les banques, ou bien aussi nos législateurs la faiblesse intellectuelle, cognitive de nos législateurs afin de proposer des idées innovantes. Parce que je sais qu'il y a un code, il y a un code de l'assurance qui est ici en France rédigé par le législateur et avec les partenaires, les acteurs assurantiel, je sais qu'il y en a en Côte d'Ivoire, alors depuis notre dernière réunion, j'en ai trouvé, mais quand même, qui est créé par un Ivoirien béninois, j'ai oublié le nom de cet assurantiel, apparemment, il propose des très très bons produits que tu proposes, là, mais ces produits-là ne sont pas connus de tout le monde, c'est un petit peu réservé à une certaine élite, c'est ça que la question est, que est-ce que l'assurance est... C'est un luxe. Afin que tout le monde puisse en bénéficier, comment faire? Comment faire passer l'information?
Merci, parce que une chose que vous devez retenir aussi, l'assurance aussi n'est pas quelque part pour venir distribuer. Parce que lorsqu'elle prend des engagements, elle doit pouvoir l'assumer. On va parler de solvabilité. Mm-hmm. Dans ce sens, en France, on parlera de solvency. Donc, c'est des normes qui viennent pour... Vérifier, bien sûr, est-ce que l'assureur est capable d'avoir un minimum de fonds propres pour assumer ses engagements. Mm-hmm. Donc, la question de l'assurance, elle est délicate sur ce cas. Mm-hmm. On ne peut pas décider de baisser les standards, rendre une assurance très accessible parce qu'on veut vendre l'assurance. Non. Mais vous avez dit un point qui est important, certains produits ne sont pas connus. Là, ce problème, nous l'avons dit pour la banque, il est valable pour l'assurance, qui a un moyen de communication sur tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que, au-delà même de l'assurance classique que nous connaissons en France d'ailleurs, mm-hmm. je pense que le climat africain devrait pouvoir penser une autre sorte d'assurance. Ça y va de nouveaux produits et ça y va aussi de ce que nous rendons obligatoire. Parce qu'on ne peut pas, à la date d'aujourd'hui, on ne va pas imposer à tout le monde, comme à certains jeunes, mais à certains ménages, il faut que certains
programmes d'assurance... Là aussi, le législateur doit légiférer avec une loi sur le code des assurances. Tu sais, c'est comme aussi le système bancaire aussi. Hein, oui. Le système bancaire est codifié par le législateur. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, mais l'assurance aussi, c'est pareil aussi, proposer des produits... Par exemple, l'assurance scolaire pour un enfant qui va à l'école, par exemple, il a une moto, je sais pas, ou une trottinette, un taxi, il vient, boum. À propos des taxis, la majorité des taxis en Afrique ne sont pas assurés aussi.
Bon, je ne dirais pas ça, par contre, parce que je pense que c'est une, y a une obligation d'avoir une assurance. Si ces taxis ne sont pas assurés, là, c'est un délit maintenant. Mais
là, c'est un délit.
Au niveau du législateur, vous avez souligné, c'est vrai que le législateur, c'est en fait ça qui caractérise aussi africainement. Nous acceptons que tout le monde peut ne pas avoir l'idée. Cela ne veut pas dire qu'il y a une carence intellectuelle, mais l'idée peut venir de tout le monde. Vous voyez, et c'est avec ça, c'est ce que nous voulons prôner avec africainement. Ça veut dire que si ce n'est pas pensé, faut que nous ne déclinons pas la responsabilité. Il faudrait pas qu'on dise que ça ne nous appartient pas aussi de penser. Mm-hmm. Donc, si nous trouvons nécessaire de pouvoir rédiger des documents bien synthétiques et proposer aux législateurs pour dire que tiens, nous voulons attirer votre attention sur une telle question, mm-hmm. parce que cela devrait pouvoir aider l'économie, aider la population, nous devons le faire. Et donc, derrière ce qui se cache aujourd'hui, il y a un point fort.
C'est un intérêt, le point argumentaire, c'est l'intérêt général, sauver les vies, et puis aussi économiquement, chacun trouvera son compte.
C'est ça.
Voilà. Mais le problème qui se passe en Afrique, le législateur africain, il a d'autres sujets de préoccupation, soit la conservation de son poste pour se servir, non pas servir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la société civile, comme vous, qui doit apporter une émergence, des idées nouvelles, des idées solides, et travailler avec les grands groupes assurantiels, parce que les grands groupes assurantiels que je suis partie sur l'intérieur regarder, ils connaissent. Ils ont travaillé ici sur AXA, sur tant d'autres, mais ils sont partis, pas le transposer, travailler pour que ça puisse être adaptable sur place, mais après il faut innover, proposer l'offre de services et tout ça. Mais le sujet qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on est toujours dans l'éducation, c'est de proposer l'assurance scolaire à partir du CP ou même jusqu'à l'université. Et tout ça, African Bank peut proposer des idées comme ça, hein, de créer des partenariats par rapport à ça. Comme toi, tu es dans les finances, c'est créer aussi des emplois.
C'est ça. Nous y croyons, comme nous l'avons dit. Nous y croyons. L'un des premiers points d'Africainement, c'est d'abord de réunir et de réfléchir. Aujourd'hui, on a sur le plateau Boris Kouakou, certes, mais en France, il y a, comme aussi en Afrique et partout, ces jeunes assureurs qui ont de belles idées. Mais nous voyons que l'un des points phares, c'est comment remonter ces idées. Et c'est l'une des questions qui nous a mené à penser africainement. Parce que, sans m'éloigner du sujet, même il y a eu plusieurs crises, la crise de Covid-19, où certains jeunes avaient de très bonnes idées, de très bonnes solutions pour lutter, mais on ne savait pas comment remonter. Je pense qu'ensemble, on est plus forts et nous n'allons pas attendre. Nous n'allons pas regarder les problèmes politiques qui existent en Afrique. Nous n'allons pas rentrer dans des considérations inutiles, mais le concret, nous pouvons le semer si nous avons la volonté. En se mettant ensemble, nous serons plus forts. Et ces questions qu'on donne, je les note depuis. C'est bien de pouvoir créer avec notre partenaire Radio Tam Tam, pouvoir aussi, lors de certaines conférences, réussir à faire de grandes couvertures pour que ces informations, tout ce qui va sortir de ces grandes réflexions, ou avec des spécialistes, des étudiants dans le domaine et tout, nous pourrons rentrer dans les profondeurs de ces sujets-là. Il faut que ça soit entendu de tout le monde et que nous puissions alerter. Parce que, sans être un peu méchant pour le coup, mais peut-être que les gens ne savent pas. Ce n'est pas un bluff. Souvent, c'est un manque de connaissances sur la question. On n'est pas assureur avant d'être législateur. On vient de la société civile. On est professeur, on est ingénieur, on vient de divers domaines. Donc, réussir ou bien se dire que c'est un impératif pour ces gens de savoir tout ça, la société a d'autres questions. Il y a plein de questions. Et en tant que population, nous sommes souvent exigeants, c'est normal. Mais en tant que population, à l'ère actuelle, pour que l'Afrique émerge, c'est que nous devons nous mettre aussi à la part pour aider. Et c'est ça qui fait africainement.
Voilà, mais on va passer à un autre sujet qui tient aussi à cœur africainement, l'éducation qui est un socle du développement des pays africains. Nous savons que l'éducation est indispensable pour un développement harmonieux et durable, alors que pouvez-vous dire, au regard du système éducatif africain?
Alors,
désolé, je n'ai pas très bien entendu.
C'est-à-dire, nous sommes sur l'éducation maintenant, on marque une transition, nous avons beaucoup parlé de la bancarisation, de l'assurantiel, maintenant... nous abordons le sujet qui intéresse au plus haut, qui est le cœur même d'Africainement, c'est l'éducation. Voilà, c'est l'éducation. C'est ça que je souhaite savoir, que nous tous ici à table, nous savons que l'éducation est indispensable pour le développement harmonieux de tout un pays. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle que je souhaite avoir votre point de vue au niveau du développement durable, ce que votre regard, le regard que vous portez sur l'éducation. Je sais que l'éducation, c'est le cœur, même le cœur de votre activité d'Africainement, parce que vous souhaitez un peuple instruit, harmonieux et... Voilà, c'est la raison pour laquelle je souhaite aussi qu'on aborde ce sujet-là.
Parce que nous devons, en fait, d'avoir un regard optimiste sur l'éducation, sur le système éducatif en général. Cependant, quand on regarde les faits ce qu'il s'en est, là où s'en est aujourd'hui, on doit admettre qu'il a échoué et essayer de l'adapter et de le structurer aujourd'hui aux réalités auxquelles nous sommes confrontés, même en termes de métier. On voit que, par exemple, dans le contexte de certaines personnes pourtant très qualifiées qui sortent d'études, qui ont du mal à trouver un emploi. Et on voit aussi cette précarité, et aussi c'est très lié à une précarité de l'emploi. Et à ce moment-là, on doit reconnaître que ce système a échoué et il faut le repenser. Et c'est un peu ça, c'est un peu ce regard que nous avons sur le système éducatif en général, c'est ce regard optimiste.
Mm-hmm. Monsieur le Président.
Merci, je partage à 100% ce que le secrétaire à la communication vient de dire. Nous devons être optimistes sur l'éducation en Afrique, mais à reconnaître qu'il y a un problème, le système ne marche plus, il faut le changer.
Effectivement, quels sont les mots qui minent le système éducatif africain? Il n'y a pas seulement la Côte d'Ivoire, parce que c'est tout un continent, surtout nous qui venons de l'Afrique noire francophone, nous avons les mêmes sujets, les mêmes sujets de préoccupation qui minent notre système éducatif en Afrique.
Je vous remercie, Madame Félicité. Il y a bien des problèmes. Vous savez, les problèmes sont tellement énormes et si nous voulons réussir à les aborder, on va partir sur les problèmes principaux, les problèmes majeurs. Parmi ces problèmes majeurs, même si ce n'est pas en ordre, nous avons d'abord les matières enseignées. Le contexte d'hier n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Le monde d'hier avec ses exigences n'est pas le monde d'aujourd'hui. Nous devons pouvoir, à la date d'aujourd'hui, repenser ce qui est enseigné. Sinon, réussir à enseigner ce qu'il faut. Enseigner ce qu'il faut sous-entend regarder dans le monde quels sont les systèmes compétitifs, comment les transporter dans notre système, mais pas que se limiter à ce qui est fait à l'extérieur, mais réussir à créer ce tout qui rendra notre système compétitif. Et dire que notre système est compétitif, ça y va de la qualité des personnes formées, de l'accessibilité et aussi de ce que ces personnes qui sortent peuvent créer. C'est comme ça qu'on développe une économie. Alors, il faut repenser les matières enseignées, comme je le disais. Il y a le langage. Vous savez que quand on... si je veux prendre un exemple concret sur Abidjan, que je peux bien maîtriser, quand on sort d'Abidjan, de Yamoussoukro, des villes environnantes d'Abidjan, bien sûr, et de Boaké, et qu'on va dans d'autres contrées, on va dans d'autres villes un peu reculées, c'est la langue maternelle qui est parlée. Et cette langue est un frein à l'enseignement. Je ne suis pas en train de demander de supprimer les langues maternelles, les langues vernaculaires. Je suis en train de demander d'enseigner aussi dans ces langues et de prendre le français en ce sens, en cela comme une matière, une langue vivante. Voyez-vous, quand on va en pays baoulé et qu'on a en face de nous des enfants qui sont nés et qui ont parlé le baoulé parce que papa, maman parlent le baoulé et qu'on devrait leur apprendre les mathématiques en français. Voyez-vous la difficulté? Le français est une langue qu'ils sont en train d'apprendre et les mathématiques aussi sont des méthodes qu'ils sont en train d'apprendre. Ça devient plus complexe. C'est pourquoi on voit généralement les enfants au village sont plus âgés. C'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils ont trop de poids à supporter. Ce que je suggère à ce sujet, bon, on va arriver sur les solutions, mais il faut déjà dire que la langue d'enseignement n'est pas la solution, n'est pas de rester qu'au français où il y a les langues vernaculaires qui sont très parlées. Il faut qu'on puisse affecter des personnes capables d'enseigner dans ces langues. Et au fur et à mesure, le français qui sera en langue vivante, mais avec un volume horaire conséquent, deviendra au fil du temps une langue qu'ils comprendront correctement. À ce moment-là, on peut bien sûr avoir comme seule langue d'enseignement le français.
Je vous comprends très bien. Concrètement, que propose Africanement par rapport à ce sujet-là? La dernière fois, nous l'avons abordé. Vous n'y étiez pas là concrètement. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ce sujet de nos langues, je veux dire entre guillemets, nos langues vivantes qu'on parle par rapport à chaque province.
Alors,
situer.
Alors, c'est très bien ce que vous posez comme question, puisque nous en avions parlé il y a quelques semaines. Et nous voulons réaffirmer ce que nous avons dit. Nous avons dit que les langues vernaculaires devaient devenir un critère aussi lorsqu'on recrute, sinon lorsqu'on prend des professeurs, on recrute des enseignants. Parce que si nous voulons créer une dynamique économique, si nous voulons créer une dynamique, un dynamisme dans l'éducation, mm-hmm. il faut prendre en compte ces paramètres. Nous avons une population qui est très concentrée à Abidjan, mais à côté, imaginez-vous le nombre.
Les villes à la lisière, voilà. Le Grand Bassam et dans d'autres aussi.
C'est le cas du Gabon, du Cameroun et tout ça. Les populations sont plus concentrées à la capitale, c'est normal.
Effectivement, ce n'est pas le problème, c'est le problème mondial à qui il y aura des mégalopoles que les populations seront concentrées là, qui sont concentrées dans les grandes villes qu'on appelle, par exemple, ici enfin, le Grand Paris, le Grand Abidjan, j'ai entendu aussi Libreville, le Grand Libreville. Bon, quoique. Bon, mais quand même concrètement, qu'est-ce que vous proposez par rapport à cela, au niveau des langues vernaculaires?
Il faut qu'elles soient utilisées comme langue d'enseignement, où il le faut. Mm-hmm. Donc, les professeurs qui sont recrutés, il faut que comprendre une langue locale devienne quelque chose de très apprécié et quelque chose de souhaité. On ne peut pas l'imposer aujourd'hui, parce que ce serait mettre d'autres personnes, ce serait un peu être une discrimination. Au long terme, ça peut être imposé. Mais dans un contexte actuel, il faut que les personnes qui comprennent les langues vernaculaires ou une langue vernaculaire soient mises en avant, soient préférées. Parce que pour enseigner dans les contrées, dans les villes à l'intérieur du pays, c'est une nécessité. Que lorsque on n'arrive pas à suivre l'enfant, il faut pouvoir l'approcher, lui parler dans sa langue, lui communiquer une explication de deuxième niveau quand il n'arrive pas à comprendre en français. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas d'alternative qui puisse tenir la route que celle-là. C'est une solution qui est jouable. Alors, parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, comme au Gabon, au Cameroun, au Sénégal et même au Burkina, la population, c'est vrai que la nouvelle génération, qui est beaucoup plus de la ville, aura du mal à parler la langue, mais quand on remonte, les gens parlent encore les langues. Et quand nous allons nous mettre à enseigner dans les langues où il le faut, nous sommes en train de promouvoir nos langues locales, qui sont d'ailleurs liées à notre culture et que nous ne devons pas abandonner. Parce que ça fait partie de la beauté de notre, de notre patrimoine.
Ça fait partie aussi des secrets.
Des secrets, vous l'avez dit.
Oui, bien sûr. La langue, moi, je parle, mais quand même, la langue la plus parlée en Afrique centrale, le fan, moi, si j'ai envie de parler quelque chose, les autres, je n'ai pas envie qu'ils nous écoutent, mais je veux communiquer dans ma langue, ou d'une manière ou une autre, que la personne soit, comprend ma langue, mais je veux communiquer d'une manière subtile que l'autre, s'il ne sait pas coder, ne comprendra rien. C'est-à-dire qu'un petit peu plus soutenu. Je peux parler aussi, je sais parler ma langue plus soutenue, je peux aussi parler comme on parle le français, le français, vous savez, moi je pense que le problème du développement en Afrique, avant qu'on rebondisse sur la fuite des cerveaux, je veux revenir toujours sur le problème de nos langues vernaculaires. Moi, je pense que nos langues, j'ai un ami là qui m'apprend la langue, je sais pas, le Mina. Il m'envoie des mots, comment il faut compter et tout ça. Bon, je n'ai pas le temps parce que je parlais quelques mots au Mina. Je dis comment ça? Mais j'ai dit, ben, au Gabon, il y avait des locataires chez nous, ils parlaient
le Mina.
Oui, oui, il m'envoie ça, mais je n'ai pas le temps de bien assimiler ça. De temps en temps, je regarde, j'essaie un peu de comprendre, puisqu'il me dit, ça là, ça signifie tel mot. À la fin, quand je regarde sa langue, et je revois un petit peu la langue, on dirait qu'il y a des similitudes. Ça prouve que nous sommes tous des Bantous. Il y a des similitudes par rapport à la façon que nous parlons. Moi, je pense que La question de langue ne peut pas être en foin parce que des langues, ça conserve des secrets. Si nous perdons nos langues vernaculaires, ben, c'est notre essence en elle-même qui va disparaître, notre esprit, notre âme. Donc, par rapport à ça, nous allons avancer notre émission qui va bientôt s'achever à notre fin. C'est-à-dire que vous êtes en direct.
Au niveau d'un projet qu'on n'a pas pu signaler.
En direct sur Radio Tam Tam, vous êtes accompagné du président, M. Boris Kouakou, accompagné du secrétaire en communication, M. Emmanuel, sont en direct sur Radio Tam Tam. Monsieur le Président, vous voulez en ajouter quelque chose par rapport à ce que nous venons de parler là?
Oui, bien sûr, parce qu'il y avait un aspect qu'on a oublié. On a un projet dans ce sens, mais je vais revenir rapidement sur un petit point qu'on avait omis. Et on va aller au projet qu'on veut proposer avant de passer à l'autre question. Il y a d'abord le fait de devenir enseignant. C'est un grand défi que nous devons relever. L'image de l'enseignant doit être rehaussée en Afrique subsaharienne. Devenir enseignant ne doit plus être la solution quand on n'a plus de solution. Si nous présentons cette profession comme telle, c'est sûr que nous n'aurons pas des gens qualifiés à la sortie de l'école. Et donc, pour revaloriser ce domaine, il faut revoir les accès, il faut que ce soit les plus méritants qui deviennent enseignants, il faut qu'on leur accorde plus de crédit, plus de valeur, plus de privilèges. Vous savez, lorsque nous n'avons pas un peuple qui est suffisamment éduqué, il y a un problème. Je le disais tantôt que quand court l'éducation, court la mentalité. Quand court la mentalité, court le développement. Ça veut dire que l'éducation devient le socle du développement.
Bien sûr.
Et donc, imaginez-vous ceux qui doivent principalement assurer la formation dans un pays sont marginalisés ou sont vus comme des gens qui ont raté leur vie. Il n'y a pas, bien sûr, de fierté à être vu comme quelqu'un qui a raté sa vie. Et on est ralenti dans sa fonction. Il y a un amour qui baisse pour ce qu'on fait. On ne le fait plus par amour. Nous devons revoir ça pour que enseigner devienne une vocation, devienne un chemin qu'on emprunte parce qu'on aime, parce qu'on veut se dédier à une profession, parce qu'on est rempli d'humanisme, et on veut servir son pays.
Effectivement, secrétaire, vous avez ajouté quelque chose dedans. Le problème de nos enseignants qui sont sous-valorisés. Et ce sujet-là, je pense que c'est un sujet étatique. C'est à l'État de valoriser le métier d'enseignant. Bien sûr que la société civile, comme africainement, à son mot, à alerter, parce que la société civile doit être en lanceur d'alerte pour valoriser des salaires et puis aussi valoriser aussi le métier, ne doit-il être considéré comme voie de garage en disant waouh, ça dit que valoriser, d'être fier, de dire que je veux communiquer mon savoir-faire.
D'accord, tout à fait. Et nous avons un projet dans ce sens. Avec la tablette qu'on avait évoquée.
Ah oui, la dernière fois, nous l'avons abordée.
Et c'est pourquoi je voudrais pouvoir saisir cette lucarne, parce qu'on n'était pas en direct l'autre fois. Vous savez que l'un des points de l'éducation, l'un des problèmes aussi qu'on n'évoque pas beaucoup, c'est les analphabètes.
Ah oui.
Les personnes qui ne sont pas, qui ne savent pas lire, écrire, et qui ne sont plus en âge de fréquenter l'école normale. À approcher ces dames, à discuter avec elles, elle nous faisait comprendre que lorsqu'elle doit partir suivre un programme d'alphabétisation, on leur demande d'être présent tous les soirs alors qu'elles mènent des activités. Et souvent, elles sont obligées de suivre un programme comme un enfant de CP1 jusqu'au CM2. Il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et nous qui voulons être un acteur de développement, qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons pensé une tablette intelligente. Et c'est pourquoi nous profitons de cette lucarne pour essayer d'en appeler aux personnes de bonne volonté qui peuvent être pour la technique, pour le financement et tout ce qui va avec. Cette tablette répond à un besoin, réussit à créer l'autonomie dans la formation pour ces femmes-là. Alors, en intégrant, selon le pays, les langues vernaculaires et une reconnaissance faciale très dynamique, la femme pourra simplement, ou l'homme, bien sûr, il y a aussi des hommes qui ne savent pas lire et écrire, qui n'ont pas fait d'école normale. En prenant la tablette, quand on appuie le bouton, un seul bouton d'allumage, le bouton principal, il y a la reconnaissance faciale. Et bien sûr, on peut suivre un programme, être expliqué, être enseigné dans sa langue. On commence avec le français, quand on ne comprend pas, il y a la langue qui prend le relais. Ensuite, quand la personne est découragée, il faut avoir la capacité à lui redonner ce qu'elle a déjà maîtrisé pour qu'elle ait l'envie de rebondir. Et ce programme sera sur 3 ans. Et donc, toutes les personnes qui ne savent pas lire et écrire, qui sont aujourd'hui des adultes et qui ont des activités, en utilisant cette tablette de façon autonome sur un programme conçu pour 3 années d'études, les personnes devraient voir l'essentiel. C'est dire quoi ? Ce n'est pas, ne vont pas venir voir quelque chose que devrait voir quelqu'un qui est en classe de CE1 verra. Non, ils verront l'essentiel. Les bases de la comptabilité, savoir lire et écrire, savoir rédiger un courrier, savoir porter plainte, savoir bien sûr s'orienter, connaître le minimum en anglais, connaître les bases de la relation client. Et tout ce package permettra une grande autonomie, mais une autonomie de qualité pour ces personnes dans la société. Cette tablette, nous espérons pouvoir l'exposer lors d'un colloque qui devrait avoir lieu en octobre, qui était prévu d'ailleurs pour le mois de 4 avril dernier, mais compte tenu de la crise Covid, nous n'avons pas pu tenir ce colloque qui devait avoir lieu à Clermont-Ferrand, mais nous avons décidé de déplacer ce colloque pour octobre. Ça sera l'occasion pour Africainement de présenter cette maquette, ce projet, et voir comment on peut avoir des personnes pour l'accompagner.
Effectivement, vous êtes en direct avec l'association Africainement et son président. Et à tous nos auditeurs qui sont connectés, si vous voulez soutenir cette association via son projet de créer cette tablette pour des personnes analphabètes, ça peut les permettre aussi de rentrer de plein fouet dans l'éducation, d'utilisation des nouvelles technologies d'information. Et monsieur le secrétaire à la communication, vous avez quand même un petit message à lancer par rapport à ça. Nos auditeurs qui sont connectés, comment ils peuvent vous aider? Aviez-vous une adresse, un numéro de téléphone à vous contacter par rapport à ça?
La page.
Oui, une communication.
Parce que là, à ce moment-là, ce serait de vous connecter sur notre, notamment nos différents comptes, nos différents réseaux, notamment notre page Facebook,
africainement.
Oui.
Et par la suite, nous aurons un peu à se diversifier sur les réseaux sociaux pour permettre en fait cette grande visibilité. Mais voilà. Pour l'instant, nous avons autant la page Facebook sur laquelle vous pouvez nous contacter directement et pouvoir, par la suite, nous allons faire le nécessaire.
Voilà, vous avez aussi un numéro de téléphone.
Le 06 59 60 97 77.
Voilà.
06 59 60 97 77. Et pour ceux qui préfèrent le mail, c'est 3xwafricainement.com.
Voilà, vous avez entendu, voilà, nos auditeurs. Donc, nous acheminons de plus en plus à notre émission. Pour terminer notre émission, nous avons encore quelques questions à poser sur le thème « La fuite des cerveaux ». Nous en avons besoin de nos cerveaux pour pouvoir développer notre continent, l'Afrique. Vous pouvez nous en parler un petit peu, si vous partagez cette pensée que nous avons nos cerveaux qui fuitent. Bien sûr que... qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez cette idée?
Il n'y a pas... Les cerveaux ne fuient pas, les cerveaux ne sont pas utilisés. C'est une réalité. Il n'y a pas de fuite de cerveau. Et aujourd'hui, je l'ai dit, et nous l'avons dit au travers d'Africainement, que... Il faut penser une politique pour que nous puissions concentrer, regrouper tous nos savoirs. Ça veut dire quoi? Les savoirs sont certes dans les livres, mais c'est les personnes qui les écrivent. Il faut réussir à réunir toutes les personnes susceptibles d'aider l'Afrique. D'ailleurs, tout le monde peut le faire. Quand vous parlez de cerveau, je suis sûr que vous parlez de l'élite à travers l'Europe, à travers l'Amérique, qui réussissent à montrer... de par leurs talents, qui sont capables de relever de grands défis. Bien, je vais aborder cette thématique à deux niveaux. Le premier niveau, voudrais-je vous dire que le plus important n'est pas de rentrer en Afrique, Le plus important est ce que nous apportons à l'Afrique. Et j'ai vu certaines personnes poser la question de savoir est-ce que vous voulez rentrer, est-ce que vous allez rester. C'est chez nous. Nous ne sommes pas venus nous éterniser. Nous sommes venus pour avoir du savoir, nous sommes venus pour apprendre des choses, avoir de l'expérience et les mettre au service de l'Afrique. Certaines personnes peuvent ne pas partager cette conception. Mais voyez-vous, c'est une politique que nous devons mettre en place pour que cette manière de penser gagne l'esprit de plusieurs. Je prends bien un cas, quand nous étions étudiants en France, je n'ai pas vu une seule fois une ambassade africaine réunir tous ses étudiants en disant simplement « le pays compte sur vous ». Cette manière de parler, d'encourager, donne un esprit patriotique.
C'est vrai. C'est vrai.
Voyez-vous,
l'amour du pays, mère du continent, de chaque continent.
Même à l'extérieur de son pays, on doit sentir que le pays n'est pas loin.
C'est vrai, vous avez
et
tout à fait.
À travers africainement, ce que nous voulons, ce que nous croyons, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui est formée en France et qui rentre en Côte d'Ivoire pour aller nécessairement ou pour aller faire seulement ce qu'une personne qui a été formée en Côte d'Ivoire fait, alors que nous connaissons le problème d'emploi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas lieu même que ça puisse tenir parce que c'est de rentrer sur un marché qui est déjà en difficulté et de venir lutter avec des gens qui cherchent à sortir de l'eau. Ce que nous devons faire, c'est que les secteurs d'activité en Afrique puissent chaque 2 années, 3 années se réunir et sortir les réelles difficultés que rencontrent ces secteurs et les mettre à disposition du réseau à l'international pour que nous puissions orienter nos recherches tant dans les entreprises, nos recherches de master, de doctorat sur ces thématiques. Ainsi, lorsqu'il aura une volonté de rentrer, ça sera une volonté utile. Ou lorsqu'il s'agira d'aider l'Afrique, ça sera utilement et pour répondre à de réels besoins. C'est dire quoi ? Moi, si je veux m'attaquer à l'assurance, je pourrais soit faire des propositions, je pourrais soit rentrer avec en ayant vu les difficultés pour aller créer de nouvelles opportunités. Je pourrais soit apporter mes solutions à l'État. Et un second point que nous banalisons, c'est la conception de ceux qui, comment on conçoit ceux qui rentrent et comment nous recevons nos talents. Je vais donner une petite lucarne sur un sujet qui est d'actualité. Il s'agit du cas Didier Drogba en Côte d'Ivoire qui veut être candidat pour la FIFA. Et nous avons vu derrière un petit comportement qui n'est pas très plaisant. Didier Drogba, qui est une figure très connue à travers le monde, qui aujourd'hui, avec tous ses succès et les responsabilités occupées dans le football à l'international, décide de rentrer, malgré les opportunités qu'il a en Europe, dans des clubs très cotés, pour se mettre au service
de la nation,
de la nation et du football. Je ne suis pas là en train de dire que je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas de processus électoral. Je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas de démocratie. Mais nous devons d'abord saluer cette volonté. Et cette volonté devait être saluée par toute la nation. Parce que c'est déjà un bel exemple qui est montré. Se dire que
d'ailleurs, un ami à lui, sans vous couper la parole, et qui le soutenait, n'est-il pas décédé là?
Je n'ai pas assez d'informations
Parce que tout le monde a salué ça, même moi-même. Là, j'ai même écrit un article par rapport à ce sujet.
C'est un bel exemple et qui doit être salué. Parce que, voyez-vous, quand je vois sur la toile des gens le vilipender, des gens avoir des propos très désenchantants, le problème, c'est que les personnes qui sont à succès à l'international regardent, n'ont pas l'envie de rentrer. Donc, il se crée un problème qu'on ne voit pas. Quand j'ai travaillé pour la Société Générale, j'ai rencontré certains grands frères qui font un travail remarquable pour que le groupe évolue. Mais je leur ai dit, mais grands frères, avec ce que vous faites, pourquoi ne pas maintenant se consacrer au développement de la banque et assurance en Afrique? Ils m'ont dit, petit frère, ce n'est pas seulement le savoir qui nous fait prendre du succès ou qui nous fait emmener l'entreprise à un certain niveau. Il y a aussi... ce n'est pas seulement le savoir-faire, pardon, qui nous emmène au succès. Il y a aussi le savoir-être. Lorsque nous allons rentrer en Afrique, et c'est le retour d'expérience de certains de nos collègues, quand nous allons vouloir imposer un rythme, l'on dira, parce qu'il a fait l'Europe, il pense tout connaître. Alors qu'il faut aussi de la rigueur. Il faut un comportement pour aller au succès. Et c'est ce que certaines personnes...
C'est vrai, je comprends qu'il y a un changement de paradigme, un changement de culture, changement d'échelle, je dirais même c'est ça, un changement d'échelle. Ça veut dire que la problématique qu'il y a par rapport à cela, ça veut dire changement d'échelle, changement de la façon de fonctionner. Ça veut dire qu'il faut aller doucement quand on arrive... quand on arrive, on veut apporter des changements. Si on va aller trop vite, il y aura effectivement ce problématique-là qui va amener au freinage. Ça ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, ça concerne toute l'Afrique. Parce que quand on vient de l'Europe, vous voulez apporter des changements.
En effet.
On n'apporte pas des changements. Je ne suis pas de, de cet avis. On apporte plutôt une manière de fonctionner. Si cela peut créer un changement, j'ai envie
une
de dire
une manière que... de fonctionner efficiente.
Bien sûr, parce que faut savoir que si nous voulons le succès, ça y va d'un comportement. Et c'est ce comportement que certaines personnes appellent le changement, mais de façon péjorative. Le changement de façon insouhaitée. Alors que si quelqu'un apporte une manière d'être décente peut nous permettre d'aller de l'avant, nous ne devons pas voir en ça un changement négatif. Nous devons plutôt l'accepter. Parce que si sans faire la promotion du système éducatif français et des entreprises françaises, on ne joue pas avec le retard en France.
Ah, pour ça, oui.
On a des rendus fréquents. Il y a aussi de travailler par objectivité. Il y a le travail sous pression qui font que ça crée une dynamique économique. Donc, lorsqu'une personne entre en Afrique, et qui a été formé en Europe, ou qui a bien sûr évolué dans une entreprise, c'est ces valeurs-là qu'il porte. Qu'elle porte, si je veux parler d'une personne, c'est ces valeurs qu'elle porte. Et donc, lorsqu'elle arrive en Afrique, l'une des choses qu'elle peut faire profiter aussi à l'Afrique, c'est ce sérieux. Je n'insinue pas que tout le monde n'est pas dans cette manière de voir les choses en Afrique. Non, il y a beaucoup de personnes qui sont très disciplinées, qui observent de très bonnes valeurs. Mais beaucoup de personnes aussi, de nombreuses personnes redoutent la venue de certains cerveaux, simplement parce qu'ils savent que des comportements ne tiendront plus. Et dans les coulisses, c'est le cas de Didier Drogba. On se dit que si Didier Drogba vient, bien sûr, j'ai entendu ces termes-là sur les réseaux, des robinets seront fermés et tout et tout. Nous avons besoin de plus de rigueur et de plus de sérieux. Les cerveaux n'ont
afin
pas
de hausser aussi le football, le grand football ivoirien qui est connu, mais quand même en Afrique de l'Ouest, c'est connu. Ça veut dire que c'est élevé au niveau mondial et aller à la Coupe du Monde, et pourquoi pas? Et pourquoi pas gagner aussi la Coupe du Monde? Ça veut dire qu'on a besoin de valeur parce que le sport, c'est. Excuse-moi de le dire, Nico, que nos auditeurs connaissent me pardonnent, je veux dire que le sport, c'est comme une religion. Parce que ça rassemble tout le monde, nous, tout le monde sont dans la communion. Si, moi, j'ai trouvé son initiative très louable, mais comme vous venez de le dire, monsieur le président, vous ne pouvez pas être aimé de tous.
C'est ça.
C'est ça.
Puisque... Mais il y a un proverbe ivoirien qui dit que même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court bien. Et il y a un choix circonstanciel. Là, je vais rentrer dans une position personnelle. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où on fait des choix circonstanciels. Même si nous devons favoriser le jeu électoral, chose que je salue, la démocratie, et il faut qu'arriver à certains moments, nous prenons de très bonnes décisions. Voici pourquoi nous devons quitter l'émotion. Vous savez, aujourd'hui, Didier Drogba, c'est un nom vendeur. Le fait que Didier Drogba se positionne à la tête de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, ça attire des regards. Et quand ça attire des regards, bien sûr, ça fera que certains talents seront détectés aussitôt. Et Drogba peut facilement faire plusieurs Drogba. Le problème n'est pas la CAN. Mais quand nous avons des joueurs qui évoluent dans de grands championnats, qui sont connus, indirectement, cela fait la promotion de notre État et aussi cela crée de l'argent puisqu'ils ont été formés de base en Afrique. Et Didier Drogba à la tête de la FIFA, voici ce que la Côte d'Ivoire gagne. Je pense qu'en pareille situation, une grande sagesse serait de pouvoir mettre une figure à la tête et de prendre les autres pour l'expérience, pour la volonté, afin de former une équipe qui réunit toutes ces grandes volontés, c'est-à-dire ceux qui désirent être président de la FIFA avec leur petite équipe, et former un grand tout. Mais quand on met Messi en défense et Puyol en attaque, on a toujours le Barça, mais on a la mauvaise combinaison. Et il faut qu'on puisse parvenir à une combinaison gagnante. Et je pense que là, la réponse, elle est vite connue. Il faut qu'on puisse soutenir ceux qui veulent œuvrer et qui sont des succès à l'international.
Tous ceux qui ont le succès à l'international, consommons aussi, pour terminer notre émission, ce qu'on va aborder, consommer local. Pourquoi nous, les Africains, nous n'arrivons pas à consommer nos produits locaux? Ou bien, je sais qu'ici, en Europe, ce qui nous manque, par exemple, sur la ville de Boson, où nous sommes, il nous manque beaucoup de magasins qui vendent des produits typiquement... africain, il faut aller à Argenteuil, qui en a un magasin qui était tenu par, des Malgaches, maintenant c'est tenu par des Indiens. Mais moi j'aime bien manger des produits locaux. Comment développer par exemple les micro-boutiques dans nos banlieues? Et c'est la fin que nous puissions consommer africain. Parce que la question est un petit peu coquine, c'est comment dirais-je,
vous avez parfaitement raison, je sais qu'on aura l'occasion de se pencher sur ce thème-là même principalement, c'est-à-dire qu'il fera l'objet, bien sûr, d'une émission, si vous le voulez bien. Mais,
Bien sûr, afin de soutenir effectivement nos produits.
C'est ça, mais aujourd'hui, comme vous présentez la lucarne, on essaiera quand même d'apporter une réponse conséquente. Vous avez dit soutenir nos produits, développer nos produits en France. C'est vrai que c'est une question que je peux dire, ça y va de la communauté, comment on s'organise ici. Mais si nous voulons aller sur la base de la problématique même générale que vous avez posée, nous consommons local. Je vais partir d'une anecdote qui va vous permettre de comprendre ma position sur ça. Il y a un monsieur qui a rencontré des hommes d'affaires et qui ont décidé de venir en Côte d'Ivoire pour venir voir ensemble comment ils allaient collaborer. Et quand ils sont arrivés, il les a logés à l'hôtel Ibis. Et pendant 2 semaines, ils n'ont pas connu chez lui. Et c'est à l'hôtel Ibis qu'il les a logés. Et il les faisait manger dans les plus grands foods d'Abidjan, dans les fast-foods, dans les plus grands foods d'Abidjan. Et après 2 semaines, les partenaires étant rentrés, les investisseurs, ils lui ont envoyé un message lui disant qu'ils ne pouvaient pas collaborer avec lui parce qu'il n'était pas sérieux. Un, il leur a fait manger des foods comme des enfants. Et deux, ils l'ont dormi dans un hôtel Ibis alors que vu la renommée qu'il aurait pu l'envoyer dans quelque chose du pays, mais qui ressemble à leur pays, qui est de chez eux tout et tout. Nous allons analyser cette situation sous plusieurs angles. Le premier angle, ce n'est pas que le désir de cet Ivoirien était d'humilier les investisseurs. Il pensait bien fait. Mais vous savez que pour des investisseurs qui ont un certain niveau, Ibis, c'est du standard français. Ibis, ce n'est pas...
C'est l'hôtel de tout le monde.
C'est l'hôtel de tout le monde. Alors qu'en Afrique, voyez-vous, le niveau de Ibis. Le but de Ibis n'est pas d'aller se mettre en Afrique comme le luxe. Ils ne font que transporter ce qu'ils font en Europe là-bas. Mais vu le niveau de l'économie, peut-être, ça paraît comme du luxe. Premier point. Les foods en France, c'est de la restauration rapide, comme le nom. Et bien sûr, c'est l'endroit préféré des jeunes. Ce n'est pas dans les foods qu'on reçoit des personnes distinguées.
Des partenaires.
Mais comme le prix est élevé et tout le monde ne peut pas se l'offrir en Afrique, il pensait bien faire en envoyant ces derniers dans un food. Mais voyez-vous, le prix n'est que converti en franc CFA, ce qui fait que c'est élevé là-bas. C'est ça la mondialisation. Ce n'est pas que c'est une opportunité qui est donnée pour dire on vient vous couvrir de câlins. C'est une concurrence officielle qui est déclenché. Et donc, comme disait l'autre, une guerre culturelle dans la rue. Ils nous ont vendu leur culture et nous l'avons achetée. en allant envoyer ce dernier dans un four, il pense l'envoyer dans l'endroit le mieux être, où il y a le mieux être. Nous devons pouvoir donner de la dignité à nos produits locaux et à ce qui vient de chez nous. Parce que nous ne pouvons pas aussi tenir rigueur à cet Ivoirien, qui est le deuxième axe que je vais développer. Il ne peut pas envoyer ses investisseurs dans un gabardorme, alors qu'on connaît comment le Garba est. On n'a pas des hôtels dans l'esprit africain, avec ces décors africains. Ça existe, mais je veux dire, ce n'est pas répandu avec cet esprit africain. Pour que quand ces derniers se retrouveront là-bas, puissent sentir qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Voyez-vous que les enjeux ici sont énormes. C'est pourquoi quand je vois certaines autorités prendre des photos pour faire de la publicité sur Facebook avec une banane braisée ou avec du gaba pour dire qu'ils sont un, je dis qu'ils insultent la culture et le développement de l'Afrique. C'est de là que vient notre économie qui est absorbée par le fait que nous ne voulons pas leur donner à ces produits et à ces endroits de la valeur et de la dignité. Nous devons développer, avoir maintenant des lignes de garba, des lignes de spaghetti. Ce que nous consommons, parce que moi je rentre en Côte d'Ivoire et que je veux tenir, je veux montrer à Madame Joffiel un garbadrome, je ne vais pas l'envoyer dans un endroit qui n'est pas propre. Donc il faut que nous puissions relever les standards. Si des gens sont capables d'ici de conserver du steak, nous sommes capables de garder du poisson et de la tiquée. Nous pouvons conserver. Consommer africain, dans un premier sens, demande à ce que nous puissions améliorer les conditionnements et développer notre consommation locale, développer nos propres industries. Deuxièmement, il ne faudrait pas que le consommant africain soit une consolation. Chose que nous remarquons sur la toile, c'est que nous devons consommer africain parce que c'est africain. C'est une communication que je n'aime pas. Nous devons consommer africain parce que c'est de qualité. Cela engage les créateurs africains qui doivent maintenant se baser sur la qualité. Nous avons la capacité de produire de la qualité.
Ça veut dire que valorisons nos produits même par le designer, la façon de présenter, le packaging...
Ça
fait partie même de la valorisation. Moi, je vous dis, j'ai participé en début de cette année-là, à un défilé de mode africain. Moi, j'ai apprécié ça. Je me dis, mais c'était tellement beau que le wax était valorisé déjà par des belles filles et puis aussi des beaux garçons qui étaient là. Je me dis, waouh, j'ai passé vraiment... une soirée formidable. J'ai cette vidéo là que je vous conseille même de le visualiser, qui est sur la page Facebook et puis aussi sur le site internet de Radio Tantan, pour voir comment un jeune Ivoirien aussi que j'apprécie beaucoup se bat aussi pour pouvoir effectivement valoriser la façon du tissu africain. Tu vas me dire que le wax est fabriqué en Hollande, ben certes. Mais nous le valorisons de notre manière, comment le porter. Je me suis dit, je cherche même une couturière, parce que j'ai des failles. Là, je dis, moi aussi, je veux m'habiller. Ça m'a donné même envie de m'habiller, de me sentir moi. Parce que je m'habille à l'occidental. Quand je m'habille, quand je dis, ouais, c'est vrai, j'aime beaucoup, mais je cherche une couturière pour pouvoir m'habiller vraiment comme une vraie. Africain, quoi. Ce que vous dites là, vous avez tout à fait raison de ne pas consommer le Canada Dry à l'africain, de consommer vraiment des très bons produits. Et quand nous avons nos partenaires financiers, des partenaires d'affaires, de les accueillir dans des endroits qui permettent en sorte que je suis en Côte d'Ivoire. Et je veux aussi manger des bons produits de Côte d'Ivoire et non pas d'aller manger chez les jeunes. Voilà, je remercie tous nos auditeurs. Vous êtes en direct sur Radio Tam Tam, accompagné de notre invité, Monsieur le Président de l'association Africainement, qui est accompagné du secrétaire à la communication. Notre émission va bientôt s'achever. Monsieur le Président, aviez-vous un mot de la fin afin de pouvoir communiquer avec nos auditeurs que nous les remercions, qui sont restés longtemps avec nous pour écouter cette émission sur la bancarisation, sur l'informel, sur le système assurantiel, l'éducation, et puis aussi pour terminer le mot de la fin qui était si nous voulons manger, consommer africain, nous devons présenter les produits de grande valeur et de grande qualité afin de pouvoir fidéliser aussi nos clients et puis aussi avoir des savoir-être et les savoir-faire. Monsieur le Président, avait un mot de la fin afin que de dire à nos auditeurs qui nous écoutent, ouais, que nous les remercions d'ailleurs.
Je vous remercie. Je remercie l'ensemble des auditeurs de Radio Tam Tam, une belle radio qui nous offre la possibilité d'échanger, de partager des valeurs, de donner l'envie aussi à tous les jeunes Africains de se pencher sur les questions africaines, pas parce que nous n'avons rien à faire, mais parce que c'est un devoir. Et pour nous, c'est l'occasion de remercier réellement Radio Tam Tam, qui est un partenaire privilégié. Nous espérons que nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de semer la graine, mais nous allons continuer à semer. Et c'est avec vous, bien sûr, parce que ensemble, nous pouvons développer des programmes d'échange avec des jeunes pour que nous puissions rentrer dans les profondeurs. C'est un exemple que nous avons montré aujourd'hui en parlant de la bancarisation. C'est une envie que nous voulons communiquer aux autres, de réfléchir aussi sur ces genres de thématiques. C'est très ouvert. Prochainement, lorsque nous allons encore nous réunir, c'est pour pouvoir évoquer d'autres thématiques. Et nous incitons tous les jeunes qui sont intéressés par ces genres d'initiatives de bien vouloir nous suivre davantage sur la page Africainement, de prendre contact avec nous s'ils sont dans les pays africains ou sont quelque part en Europe, parce que nous recherchons des représentants. Africainement cherche à réellement s'implanter dans pas mal d'endroits par son pôle Africainement Intellect, qui veut créer un cadre d'échange formel entre jeunes sur les thématiques et enjeux liés au développement de l'Afrique. Et je voudrais bien sûr terminer en saluant certains de mes collaborateurs, certains de mes confrères, certains organismes. Voudrais-je commencer déjà par saluer l'ONG Souvent Notre École, saluer le président Brice Kanambaye depuis la Belgique, qui est le président du collectif des Maliens, avec qui j'ai eu de longs échanges il y a 2 semaines. Voudrais-je aussi saluer au niveau d'Africainement certains membres du bureau exécutif, notamment Ursula Seri. Je voudrais saluer Clovis Blanchard qui a été promu vice-président, saluer la secrétaire générale Jalia Timité et l'ensemble de nos collaborateurs bien sûr qui nous suivent et qui travaillent d'arrache-pied pour que Africainement puisse prendre ses marques. Un petit coucou rapide du côté en Afrique avec l'ONG Sauvons Notre École, à notre représentant depuis la Côte d'Ivoire, Bonel CA, et à toutes ces personnes qui sont restées connectées sur la page Africainement pour pouvoir suivre toute notre intervention sur Radio Tam Tam.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous remercions tous nos auditeurs qui sont restés connectés parmi nous. Nous vous disons merci et puis nous disons aussi aux amis de Côte d'Ivoire qui se trouvent à Londres, mes amis qui sont à Londres aussi, Baolé. Si vous écoutez notre émission, votre émission sera aussi en podcast sur toutes les plateformes Apple. La plateforme s'appelle PodGoodYou. PodGoodYou veut dire tout simplement « bien jour ». Enfin, c'est l'inverse du verlan de bonjour. Donc, ceux qui ne nous ont pas écoutés, donc il y aura donc le podcast qui sera sur toutes les plateformes Radio Plus, Spotify, et puis aussi sur le site internet de Radio Tam Tam, afin que vous puissiez réécouter notre émission d'aujourd'hui. Je remercie aussi ceux qui nous regardent sur Facebook, qui nous ont regardé sur Facebook. Nous vous redisons merci, ciao ciao et à très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde.
Merci à vous.